Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à tous, bon réveil à toutes et à tous, bienvenue dans Apolline Matin, jeudi 14 mai. Dans deux semaines, ça c'est un des sujets de débat du jour, dans deux semaines les salariés au SMIC seront augmentés de 34 euros net, c'est automatique, c'est lié à l'inflation. Bonne nouvelle pour les plus précaires, mais moins bonne pour les patrons qui pourraient en plus voir les allègements de charges baisser. Le porte-parole du MEDEF à 7h40 tout à l'heure, mais déjà vos témoignages, est-ce qu'il faut augmenter les salaires, est-ce qu'on peut augmenter les salaires. Que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, on a le nez sur la compta ce matin, vous nous appelez au 3216, vous écrivez sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Dans un instant, le journal de 7h avec cette affaire de babysitter soupçonné d'avoir commis viol et agression sexuelle sur 18 enfants qu'il gardait alors qu'il avait déjà été condamné il y a 6 ans. Comment protéger nos enfants du fléau pédocriminel? Qui, pour les protéger à l'aide d'une intelligence artificielle, un internaute a piégé un retraité? Un ancien prof de PS qui croyait parler à une ado de 14 ans. Est-ce qu'on va en venir à se faire justice nous-mêmes? Est-ce que n'importe qui peut traquer les pédophiles en ligne? Non, non, nous dira maître Jean Sagné. Il y a une déontologie à respecter. C'est l'avocat de l'association Innocence en danger qui piège justement des pédocriminels. Il sera en direct avec nous juste après le journal de 7h.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Presque une formalité à deux semaines de la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1 pour la 14e fois. Victoire 2-0 hier soir à Lens. Comment a-t-il pu récidiver aussi facilement? Un babysitter déjà condamné à Nice, à nouveau mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une vingtaine d'enfants. La mère d'une de ses premières victimes témoigne ce matin sur RMC. Et puis des nouvelles rassurantes côté antivirus. Aucun des 26 cas contacts français n'a de symptômes, indique le gouvernement.
Il n'y avait presque aucun suspense, mais c'est donc officiel désormais. Le Paris Saint-Germain est champion de France, champion de Ligue 1.
Pour la 14e fois de son histoire, grâce à sa victoire 2-0 contre son dauphin, le RC Lens, au Stade Bollard. Presque une formalité, Lucas Laubert.
Oui, un nouveau trophée pour le PSG, fêté en toute sobriété, l'attaquant Désiré Doué.
On est champion.
Au Stade Bollard, hier soir, le club parisien est venu à bout de Lens, son principal rival tout au long de la saison. L'entraîneur parisien Luis Enrique est soulagé.
On a eu beaucoup de joueurs blessés, avec peu de vacances cet dernier été. Ça a été difficile à gérer et on a eu des difficultés.
Paris peut remercier son gardien, Matvei Safanov, auteur d'une prestation XXL, 8 parades décisives. Le gardien est fier de sa prestation à 2 semaines de la finale de Ligue des Champions.
Et c'est pas tous les matchs comme ça. J'ai eu les résultats de mon travail, mais notre chemin n'est pas fini. On a une idée à notre tête, toute l'équipe. On va continuer le travail avec grande concentration.
On ne sait toujours pas où le PSG pourra soulever son trophée. Le Paris FC, dernier adversaire de la saison, s'est déjà dit contre une cérémonie de remise à jambon dimanche soir.
Luc Allobert avec Arthur Perrault pour RMC et c'est officiel. Le Mans jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine. La Ligue de football professionnel entérine définitivement sa victoire 2-0 à Bastia samedi dernier. Le match avait été interrompu par des jets de fumigène.
La sidération de nombreuses familles ce matin après la mise en examen d'un pédocriminel déjà condamné par la justice.
Un babysitter condamné il y a 6 ans à Nice pour agression sexuelle sur mineurs, condamné à 5 ans de prison avec interdiction d'exercer un métier en contact avec les mineurs. On vous en avait beaucoup parlé sur RMC. Et bien ce même homme, 37 ans, vient d'être mis en examen pour des mêmes faits à Lille dans le Nord, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur 18 enfants qu'il gardait. Inconcevable pour la mère de la première victime à Nice. Témoignage RMC recueilli par Inès Zegloul.
Cela fait à peine quelques minutes qu'elle a appris la nouvelle. Le souffle court au téléphone.
Je vous laisse imaginer la stupeur.
Sophia parle de colère, de haine, de douleur.
Ça réouvre un gros bobo qui finalement n'a jamais été fermé, quoi. Mon Dieu, mais mon Dieu, tous ces enfants. Oh.
Ils sont 18, âgés de 2 mois à 5 ans à l'époque des faits. 18 victimes potentielles du même homme, l'agresseur de son fils, pourtant déjà condamné il y a 6 ans. 18 victimes potentielles du même mode opératoire.
Mon fils a réussi à mettre cet homme sous les barreaux. La justice le libère au bout de 3 ans, il prend le train puis il va s'installer au nord de la France et puis il reposte des petites annonces de babysitting. Qu'il puisse recommencer la même chose, c'est pas normal.
La maman, voix tremblotante, déplore un suivi judiciaire qu'elle qualifie d'inexistant.
Il n'a pas dû pointer chaque mois, expliquer où il en était, quel travail. Ce garçon aurait dû être surveillé de près. Un monstre. Vous vous rendez compte ?
Question laissée en suspens. Les parents qui embauchent des babysitters, conclut-elle, devraient au moins pouvoir consulter leur casier judiciaire.
Le SMIC augmentera d'environ 34 euros net au 1er juin, plus 2,4% hausse mécanique à cause de l'inflation qui, elle, a grimpé de 2,2% en un an. Une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, selon le ministre du Travail. Moins bonne pour les employeurs, car cela fait augmenter le coût de l'allègement des charges patronales. Mais Victor Joannin, le gouvernement réfléchit à une solution.
Oui, cette revalorisation du SMIC a fait gonfler la note pour les comptes publics de 1,5 à 2 milliards d'euros, puisque les allègements de charges coûtent plus cher à mesure que le SMIC augmente et qu'elles englobent aussi plus de salariés. Pour quelqu'un payé 2 000 euros, la hausse du SMIC au 1er juin, c'est 25 euros d'allègements supplémentaires, et pour quelqu'un payé 3 fois le SMIC, c'est même 120 euros. Un manque à gagner alors que le gouvernement cherche 6 milliards d'euros d'économies pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran. Selon nos informations, deux options sont sur la table et elles risquent de décevoir les entreprises qui pouvait s'attendre à des allègements supplémentaires, soit un gel total de ces allègements, soit un gel concentré sur les plus hauts salaires, une deuxième option qui ferait économiser 1 milliard d'euros. Ce serait une erreur, s'alarme le patronat qui est vent debout.
Vous êtes chef d'entreprise, on vous attend au 32-16. Cette hausse de 34 euros net, la bienvenue, j'imagine, pour les bas salaires, vous nous le dites aussi dans le contexte en plus avec les prix qui augmentent, les prix des carburants. C'est le débat ce matin, on vous attend au 32-16.
Donald Trump en opération séduction en Chine, reçu en grande pompe par Xi Jinping, à qui il promet, je cite, un avenir fabuleux entre leurs deux pays. À la clé, après cette rencontre, des contrats commerciaux et une médiation espérée dans le dossier iranien.
C'est donc la souche des Andes qui a été détectée dans les 8 cas d'antivirus en lien avec la croisière MV Ondius.
C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé. Et en parallèle, on a des nouvelles des Français cas contact de la Néerlandaise qui était présente à bord, décédée ensuite. Les 26 cas contact n'ont pas de symptômes, indique le gouvernement. Les nouvelles sont donc plutôt rassurantes, Thomas Becker.
Oui, hormis la croisiériste dont l'état s'est vite dégradé, aucun des 26 cas contact ne présente de symptômes. Les 4 enfants scolarisés qui sont actuellement hospitalisés sont tous négatifs. Les enfants n'ont donc pas pu transmettre le virus puisque selon le ministère de la Santé, un test négatif exclut toute contagiosité. Autre information pratique, le protocole appliqué pour déterminer qui est cas contact est le même que pour la méningite. 3 règles, avoir eu un contact rapproché dans les 10 jours précédant le test, contact de moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes. Dans ce cas, la personne devrait être isolée en milieu hospitalier. La doctrine la plus stricte, rappelle la ministre de la Santé, qui tente de convaincre ses homologues de l'appliquer dans tous les pays européens.
7 ans de prison, 2 nouveaux requis contre Nicolas Sarkozy et 300 000 euros d'amende au procès en appel du financement libyen de sa campagne. C'est 2 ans de plus que sa condamnation en première instance. Les réquisitions, elles, sont les mêmes, Julie Brault, mais formulées hier avec beaucoup plus de sévérité.
Oui, les avocats généraux n'ont pas mâché leurs mots. Selon eux, Nicolas Sarkozy est l'instigateur, celui qui a tiré les ficelles et l'unique bénéficiaire d'une association de malfaiteurs pour lui permettre d'être élu. Il ne s'agit pas de n'importe quel scénario ou impact de corruption scellé au plus haut niveau avec le dictateur Muammar Kadhafi, dénonce-t-il. Des réquisitions sans appel au cours desquelles Nicolas Sarkozy est, comme à son habitude, resté stoïque, sans jeter un seul regard à l'accusation. Lui qui entend plaider sa parfaite innocence par la voix de l'un de ses avocats, Maître Christophe Ingrin.
Il n'y a pas d'argent dans sa campagne, il n'y a pas d'argent dans son patrimoine, pas d'argent libyen, et pour cause, il n'y a pas eu de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par la Libye, il n'y a pas eu d'enrichissement de Nicolas Sarkozy. Son élection n'a pas été biaisée. Et je le redis, Nicolas Sarkozy est innocent et nous le démontrerons dans 15 jours.
Le 27 mai prochain, ils seront 4 à plaider la relaxe de l'ex-chef d'État. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy pourra, s'il le souhaite, s'adresser une dernière fois à la Cour et qui doit rendre sa décision le 30 novembre.
Julie Brault du service police-justice d'RMC. Et puis c'est ce soir qu'on connaîtra la liste des Bleus. Ah. Didier Deschamps la dévoile à 20h à un peu moins d'un mois du Mondial. Le Mondial dont on connaît, ça y est, les têtes d'affiche pour le spectacle de la mi-temps de la finale. Il y aura Madonna déjà pour commencer.
Qui revient en force.
Et on aura aussi Shakira qui signe, vous le savez Mathieu, l'hymne de cette Coupe du Monde. Je vous la présente plus, Die Die Die, qu'on avait découvert un extrait, maintenant c'est disponible en entier sur les plateformes. Il y aura donc Madonna, Shakira et aussi BTS, hein, les stars de la K-pop. Tout ce beau monde dirigé par un directeur artistique, Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Ouais, pour la finale le 19 juillet, ça promet.
Ça promet, on n'a pas l'affiche de la finale, mais on a déjà l'affiche du show de la mi-temps. Cette finale de Coupe du Monde façon Super Bowl. Désormais, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. RMC, radio officielle, bien sûr.
Absolument.
De la Coupe du Monde qui démarre bientôt, là. Ça y est, on est moins d'un mois. Hein. On est le 14, c'est le 11 juin. Merci beaucoup, Clara. C'était le journal de 7h sur RMC. Et RMC Story, bien entendu, vous réagissez ce matin au 32-16 sur deux grandes questions. D'abord, le SMIC. Faut-il augmenter le SMIC? Il augmente automatiquement de 34 euros net à partir du 1er juin prochain. Mais dans quelles conditions pour les chefs d'entreprise, avec les allègements de charges ou non, le gouvernement y réfléchit. Vous allez voir, c'est assez technique, mais il y a de l'enjeu pour les petits patrons notamment. Et je vous attends au 32-16. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et l'autre grand sujet à la une ce matin, ce retraité de 66 ans, pédocriminel piégé par un TikToker. Finis-y, jeune homme qui, grâce à une intelligence artificielle, s'est fait passer pour une adolescente de 14 ans. Le retraité, ancien responsable de sport scolaire, est en garde à vue. Mais une question se pose sur la méthode. A-t-on le droit de faire la chasse aux pédocriminels soi-même? On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a une certaine déontologie à respecter. C'est le parti pris de Maître Jean Sagnier, avocat d'Innocence en Danger. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, il est 7h13. Un retraité de 66 ans, ancien directeur du sport scolaire en Haute-Saône, déjà condamné en janvier 2025 pour détention d'images pédopornographiques. Il a été placé en garde à vue mardi après la diffusion d'une vidéo virale sur TikTok. Un internaute, Finis-y, l'avait piégé en se faisant passer pour une adolescente de 14 ans. La voix et l'image générées par intelligence artificielle.
Et si on se voit et que je t'emmène au parc, donc là tu vas me connaître. Donc là, est-ce que je pourrais t'embrasser par exemple?
C'est à vous, je ne peux pas prédire le futur. Ouais, je le dis tout à l'heure, imagine que tu as 14 ans.
Bonjour Maître Jean Sagnier.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocat de l'association Innocence en Danger qui défend notamment des enfants victimes de violences sexuelles. Votre parti pris ce matin, on ne peut pas faire n'importe quoi en chassant les pédocriminels sur Internet. Je tiens à préciser que vous défendez des associations qui piègent ce genre d'individus. On va parler du fond et de la forme ce matin. Dans ce cas précis, qu'est-ce qui pose problème selon vous?
Bon, ce qui pose problème, c'est qu'il s'agit d'une infraction. Le fait de diffuser des informations personnelles dans le but de nuire, c'est ça la question, dans le but de nuire à une personne n'est pas acceptable en soi et réprimé par les dispositions de l'article 223.1.1 du Code pénal. Que l'on chasse des pédocriminels sur Internet, c'est une bonne chose puisque l'État ne le fait pas ou pas suffisamment. Il y a une grande carence de l'État à protéger les enfants sur la toile. Mais ça ne peut pas se faire comme cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas livrer à la vindicte populaire un individu en donnant son image, sa photo. On ne sait pas dans quel espace on arrive. Cet homme a des enfants, cet homme a une famille, cet homme a une mère qui peut-être l'apprécie et qui dit à ses amis de l'EHPAD que c'est un enfant adorable, un garçon charmant.
J'entends, maître, mais si jamais c'était dans les règles de l'art et que c'est la police qui intervenait, qui l'arrêtait, etc., le dommage sur l'entourage, les proches, la mère dans un EHPAD, c'est le même?
Non, c'est pas le même, parce que d'une part, le fait de diffuser ce type de document en direct, en live, d'une part, ça va permettre aux pédocriminels d'effacer les preuves. Je pense que dans cette vidéo, on voit immédiatement l'individu qui ne répond plus au streamer. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, puisqu'il est appelé quelques minutes après par téléphone? Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'apercevoir qu'il a été piégé. Il va faire disparaître le téléphone portable. Il va faire disparaître les ordinateurs. Tout ça va à la poubelle.
Ça, c'est essentiel, maître. En procédant en dehors des règles de l'art, si j'ose dire, et des règles d'une enquête classique, on permet aussi à ces pédocriminels ou présumés pédocriminels d'effacer toute forme de preuve, de détruire leur disque dur, etc.
C'est ça, et puis il y a peut-être aussi une enquête qui aurait pu être mise en place si, au lieu de le faire en direct, ça avait été fait en différé, remis aux services de police, comme le font des associations telles que la Team Mort, qui ont un process très précis.
Et mais justement, pardonnez-moi, vous défendez des associations qui font ça, et on découvre qu'il y a aussi quand même tout un système qui est en place. Quelles sont les règles pour la traque de pédocriminels en ligne?
Alors les règles, elles sont pratiquement les mêmes que ce streamer, c'est-à-dire qu'on voit bien dans ce qu'il fait qu'à aucun moment il ne va provoquer le pédocriminel. Il évite d'ailleurs à chaque fois d'aller sur le terrain sur lequel on veut l'emmener. Donc son attitude est, à mon sens, sans aucune critique, il n'y a pas de grief à lui faire. Il est parfaitement dans son rôle d'enfant qui refuse d'accompagner cet agresseur sur le terrain où il veut l'emmener. Ça, c'est la doctrine de notamment de la Timor, ne jamais provoquer, toujours être passif et toujours éviter.
Le problème de cet homme, c'est qu'on parle ce matin d'un pédocriminel qui pense échanger, je le disais, avec une ado de 14 ans, mais cet ancien prof de PS, il était déjà poursuivi pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Il a été relaxé pour ses faits en 2025, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Je voudrais vous faire écouter, maître, cet extrait du témoignage RMC recueilli par Constance Bostoen, une ancienne élève de ce monsieur.
Il était venu me voir, il m'avait pris à partie, il m'avait dit « Voilà, maintenant, faut que tu me fasses un bisou pour me dire bonjour, mais attention, faut que personne ne nous voit. » Après, je me souviens qu'il me prenait énormément en photo.
Alors moi, je veux bien qu'il y ait une manière de faire, qu'il y ait aussi des principes, et la justice n'est pas n'importe quoi. Mais la justice, faut croire que ça marche pas bien, maître. Vous savez, la plupart des gens qui nous écoutent ce matin, ils vont saluer le travail de Finizi.
Raison de dire que la justice n'est pas à la hauteur. Mais il n'y a pas que la justice qui n'est pas à la hauteur. L'ensemble de nos gouvernants ne sont pas à la hauteur. Les enfants, depuis des années, les enfants crient, les enfants dénoncent le système et ils ne sont pas entendus. C'est-à-dire que la réponse judiciaire, elle est totalement défaillante. Et c'est parce que la réponse judiciaire est défaillante que l'on se dit, puisque l'État ne fait pas son travail, ce qui est une certitude, puisque l'État ne mesure ni l'urgence, ni l'ampleur du fléau, alors que les victimes parlent.
La défaillance, c'est celle de l'État, maître Jansagne. Ce que vous soulignez ce matin, vous l'avez dit en début d'interview, et vous le redites à présent, parce que cet homme était en liberté. Si vous allez sur le compte de Finizi, il y en a des tas d'autres visibles sur TikTok, des tentatives du même ordre qui ne sont pas allées au bout. C'est parce qu'on parle aussi ce matin de ce babysitter qui est mis en examen pour viol, agression sexuelle sur 18 enfants qu'il gardait 6 ans après avoir été déjà condamné.
Oui.
C'est parce qu'on a parlé du site Coco qui a servi à Dominique Pellico à faire violer sa femme et qui est encore en ligne à nouveau. Qui protège les enfants, maître ?
Alors, dans ce que vous dites, il y a des certitudes que l'on connaît aujourd'hui. Actuellement, à l'instant où l'on parle, il y a 2 600 000 pédocriminels en ligne. C'est-à-dire que dans le monde, en permanence, il y a pratiquement 3 millions de pédocriminels en chasse. Donc c'est véritablement un fléau qui est très important. Quand vous dites et quand vous rapportez qu'effectivement l'État ne fait pas son travail, il n'y a pas que l'État qui ne fait pas son travail. Cet individu a été condamné en janvier 2026 et vous voyez la peine, elle est inexistante. 18 mois sursis. 18 mois sursis. C'est-à-dire que même s'il a une obligation de soins, on le retrouve effectivement sur le net. C'est-à-dire que ni la réponse de l'État, ni la réponse de la justice ne sont présentes. Et c'est parce que ni l'un ni l'autre ne sont présents qu'effectivement la très grande majorité de vos auditeurs vont dire effectivement, puisque l'État ne fait pas son travail, c'est très bien qu'il y ait des individus qui le fassent seuls. Moi, ce que je constate, c'est
Merci
que...
Merci maître, pardonnez-moi.
Moi, je vous en prie.
Excusez-moi, je vous laisse terminer votre phrase, excusez-moi.
Ce que je constate, c'est que vous avez des carences qui sont palliées, telles que le site Coabuse. Le site Coabuse vient de détecter des victimes d'un professeur de piano. Ce site fait quoi ? Eh bien, lorsque vous êtes victime et que vous êtes seul, vous n'êtes pas crédible. Il permet de façon anonyme à des victimes de déposer leur témoignage. Et s'il y a plusieurs victimes qui dénoncent le même agresseur, elles vont pouvoir être mises en relation. Et c'est ce match qui va permettre la dénonciation. Donc la carence de l'État est compensée par des sites comme Coabuse, comme la Timor. Et l'association Innocence en Danger va poursuivre malheureusement ce combat qu'elle mène depuis plusieurs dizaines d'années parce que l'État est trop défaillant dans ce combat.
Merci maître Jean Sagnier, avocat de l'association Innocence en Danger. C'était important aussi d'expliquer le cadre juridique de ce débat que nous avons ce matin. Ça vous fait réagir, c'est certain. Vous intervenez au 32-16 ce matin, il est 7h21. Et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
Si vous l'avez reconnu, évidemment, Charles de Gaulle. La maison de Charles de Gaulle est à vendre, Arthur.
Oui, la maison de Charles de Gaulle, c'est la Boisserie en Haute-Marne. Le général y avait ses petites habitudes. Par exemple, il faisait 3 promenades par jour
et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Et on va faire une cagnotte ensemble, Arthur, pour que vous puissiez faire un apport.
J'ai déjà mis.
Et puis à 8h30, dans le face-à-face, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est Arnaud Demange qui pirate le face-à-face juste avant 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est avec vous, Arthur Chevalier. L'avenir de la boisserie, est d'être la demeure de tous les Français. C'est ce qu'affirme cette semaine un des quatre petits-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, dans une tribune pour le magazine Le Point. Arthur, la boisserie, c'était la maison du général.
Oui, et les héritiers de Gaulle ont décidé de la vendre. Donc évidemment, la crainte de tout le monde, c'est qu'elle soit rachetée par un particulier, qu'elle soit en quelque sorte privatisée, cette maison. C'est pour ça qu'Yves de Gaulle prend la parole en affirmant notamment qu'il refusera de céder ses parts de la demeure à une personne privée. Alors lui, ce qu'il veut, c'est que la maison soit acquise par le département où elle se trouve. Ce département, c'est la Haute-Marne.
Et alors cette maison, c'était le lieu de résidence privée du général de Gaulle.
Absolument, Mathieu. Il y a passé beaucoup de temps, la plupart du temps de sa vie, en fait. Même quand il était président, il y passait ses week-ends. La boisserie, c'est une maison cossue, mais assez simple. C'est finalement assez modeste. Dans un village de la Haute-Marne, un village qui s'appelle Colombé, les deux églises, et le couple de Gaulle achète cette maison en 1934. De Gaulle a à peu près une quarantaine d'années. Pourquoi est-ce qu'ils achètent cette maison? Eh bien, parce que une de leurs enfants, leur fille Anne, était handicapée, elle était trisomique. Donc, ils voulaient un endroit où elle pourrait s'épanouir avec plus de verdure et plus d'espace que dans leur appartement parisien.
Alors, le général de Gaulle, il y avait ses petites habitudes.
Alors, le général de Gaulle, Mathieu, n'avait que des habitudes. Ça, faut le savoir. À la boisserie, tout était réglé comme du papier à musique. Le général se levait tous les matins à 8h. Il prenait son petit déjeuner dans sa chambre. C'était café au lait et tartines. Ensuite, de Gaulle s'habillait, toujours en costume. D'ailleurs, son fils Philippe dira plus tard qu'il n'a jamais vu son père en robe de chambre ni sans cravate. Rendez-vous compte. Wow. À 13h, on déjeune, 40 minutes, jamais plus, puisque de Gaulle détestait s'éterniser à table. Il faisait 3 promenades par jour, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le soir, il se couchait en dernier, vers minuit. Alors pourquoi en dernier? Eh bien parce qu'il voulait lui-même éteindre les lumières.
Est-ce qu'il s'est passé des événements dans cette maison de campagne, somme toute, on peut le dire comme ça?
Exactement. Ben justement, en fait, assez peu, puisque le principe de la boisserie, c'était que c'était sa vie privée. Donc très peu de gens avaient l'honneur d'y être reçus. Le seul grand événement politique qui s'y est produit, c'était en 1958. De Gaulle reçoit le chancelier allemand Adenauer. Et d'ailleurs, Colombé les deux églises, donc le village où est la maison de Gaulle, était tellement méconnu que le chancelier allemand s'est trompé de village, il a été dans un autre Colombé qui était en Meurthe-et-Moselle.
Ah mince.
Donc il est arrivé avec une heure de retard. Finalement, il a dîné chez le général et il a même dormi là-bas une nuit, un privilège énorme.
Alors de Gaulle y est aussi mort.
Absolument, et pas n'importe comment, puisque de Gaulle est mort donc le 9 novembre 1970. Il est à peu près 19h et il jouait aux cartes. Et là, d'un coup, il est tombé. Rupture d'anévrisme qui lui a été fatale. Depuis sa disparition, un seul chef d'État français a dormi à la boisserie, à l'invitation de la famille de Gaulle. C'était Jacques Chirac en 1995.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, et je sais qu'Arthur va manger du pop-corn cette année.
Exact.
Puisque de Gaulle, on va pouvoir en profiter au cinéma, la bataille de Gaulle.
Excellent film.
Vous l'avez déjà vu?
Oui, je l'ai vu, c'est un excellent film.
Ça sort en deux volets, mais à partir du 3 juin prochain, 3 juin et 3 juillet, la bataille de Gaulle, ce sera au cinéma. Et votre chronique, Arthur, c'est ce matin, quand on veut, en podcast, sur l'application RMC.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Bonjour Arnaud Demange.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face est Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po. Il a publié « La guerre mondiale n'aura pas lieu ».
Oui, c'est un spécialiste français du Moyen-Orient qui nous parlera de l'Iran. Est-ce que l'inverse existe? Est-ce qu'en Iran, ils ont un spécialiste moyen-oriental des Français avec une Apolline de Malherbe locale qui le reçoit dans « Face à Téhéran » Bonjour professeur, vous êtes spécialiste de la France. Alors, la France a-t-elle les moyens d'intervenir dans ce conflit chez nous?
Non, pas du tout.
Merci, l'interview est finie. Alors, je rappelle votre livre, La France au Moyen-Orient en 2025, Histoire d'une influence. Un livre de 2 pages absolument passionnant. Et en plus, c'est écrit gros. Voilà, ça fait des face-à-face très courts. Allez, le détroit d'Ormuz.
Oui.
On va dire ça, parce qu'en plus, alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous Mathieu, ça vous concerne, attention j'ai un raisonnement qui est un peu technique qui arrive, dites à vos cerveaux de partir à l'échauffement, ce serait con de risquer un claquage dès le matin,
attention.
J'ai lu que le Premier ministre du Qatar accuse les Iraniens d'utiliser le détroit pour faire chanter les pays du Golfe. Mmh. Mais donc, si le Qatar ne peut plus exporter son gaz et son pétrole, ils vont faire faillite. Ils vont devoir vendre les joueurs du PSG juste avant la finale de la Ligue des Champions. Il va falloir racheter en urgence tout l'effectif du FC Metz. Ce qui ne doit pas être bien cher, hein. Je pense qu'on peut se cotiser. Oh. Vous avez combien sur vous? Non, pas si ça arrive.
Très cher, mais une ça défense. Fait pas finale une défense. Des Champions.
Si ça arrive, ça va énerver les supporters. Si j'étais Yann Arthus-Bertrand, j'irais démonter mon exposition moi-même, là, tout de suite. Plutôt que de risquer de la retrouver à nouveau éparpillée par petits bouts façon puzzle sur la place de la Concorde. Parce que samedi, vous vous souvenez, elle a été démolie par Charles Magnien, Mathieu Béliard et Lorenzo. C'est pas vous. C'est pas vous, alors.
C'est Charles.
C'est Charles. C'est que Charles. C'est Charles. Ceci dit, le gros dossier iranien, c'est la rumeur. Vous avez vu, on a tous en mémoire la claque que Emmanuel Macron a pris de la part de Brigitte dans l'avion présidentiel. Oui. Vous savez, le France avion. Eh bien, la rumeur, c'est que c'est à cause de SMS envoyés à l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, une relation décrite comme platonique. Oui. Alors, le coup de la relation platonique, c'est audacieux. Visiblement, ça marche pas. Vous prenez une claque, ne le tentez pas chez vous. Dans 2 mois, on a les photos de Macron en scooter qui va livrer des croissants. Mais en tout cas, voilà. Non, mais c'est cool. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Mélenchon qui drague les Iraniens en robe. Et ça, c'est assez chouette. Allez, rendez-vous avec Frédéric Ancel à 8h30.
Arnaud Demange, on vous retrouve à 8h15, surtout.
Exactement, avec une énorme chronique.
Quand on veut, on peut écouter Arnaud en podcast sur l'application RMC. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30 et juste après le SMIC qui augmente de 2,4%, 34 euros net à partir du 1er juin prochain. Bonne nouvelle, pas pour les patrons. Le gouvernement envisage en plus de geler les allègements de charges pour faire des économies. Le MEDEF est vent debout. Charles Nati, son porte-parole, notre invité à 7h40. Il est 7h28.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Rachel Sadedine. Bonjour Rachel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un serpent mortel sème la panique au nord de Toulouse. Toute une commune se retrouve barricadée dans la peur du cobra. Plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Et on ne parle pas d'un chauffard, mais d'un enfant, un bébé de seulement 21 mois. Ses parents ignorent comment leur fils s'est retrouvé dans cet état. Et puis le Paris Saint-Germain, un nouveau titre de champion de France à célébrer, le 14e au total. Mais on ne sait pas encore où la fête aura lieu.
Cette information, vous habitez Castelginest, au nord de Toulouse. Appelez-nous ce matin au 3216, il y a un cobra hautement venimeux qui est toujours en fuite ce matin.
Et il terrorise la commune donc de Castelginest, vous le disiez Mathieu, au nord de Toulouse. Ce serpent dont la morsure est mortelle, on le rappelle, il a été aperçu avant-hier par des habitants. Et depuis donc le collège, un parc, un cimetière, les terrains de sport ont été fermés. Philippine Boulet, les 11 000 habitants vivent dans la psychose.
Dans ce quartier de Castelginest où le serpent a été aperçu, les rues sont presque vides. Les habitants, comme Yann, restent enfermés chez eux pour éviter de croiser le cobra.
Comme d'habitude, c'est plein là sur la place, on s'amuse tous. Là, c'est pas le moment de sortir. On a mis les enfants au chaud, les animaux, et puis on fait attention quand on sort.
Grégory habite aussi le quartier. Autour de chez lui, des pièges ont été posés.
Des plats quoi, pour créer un peu de chaleur, essayer de l'attirer pour pouvoir le capturer.
Mais ça ne suffit pas à rassurer ce père de famille.
Ah, l'inquiétude forcément, avec les enfants, même pour nous-mêmes, de toute façon, on a hâte qu'ils le trouvent et qu'on ne l'ait plus à côté de chez nous.
Pour capturer l'animal, plusieurs équipes de pompiers spécialisées sont mobilisées à la demande du maire de la commune, Grégoire Carnero.
Bien entendu, on ne peut pas prendre de risque. On l'a mis en sécurité, ce qu'on devait mettre en sécurité.
Par mesure de précaution, l'élu a fermé les parcs, les terrains de sport, mais aussi le collège et les centres de loisirs de la commune.
On a massivement informé par le biais des panneaux lumineux, des SMS, des réseaux sociaux également.
Et ce n'est pas la première fois qu'un animal exotique sème l'inquiétude à Castelginest. En 2019, déjà un caïman avait été découvert dans l'Erse, la rivière qui traverse la commune.
Des nouvelles rassurantes de l'antivirus. Aucun des 26 cas contacts français ne présente de symptômes. Et parmi eux, même 4 enfants ont été testés négatifs. Les résultats des adultes devraient être connus, eux, dans la journée. Une autre épidémie, encore sur un bateau de croisière à Bordeaux. Un navire est amarré depuis hier à cause de plusieurs cas de gastro-entérite. D'abord coincé à bord, la plupart des passagers, ça y est, ils ont pu débarquer hier soir, mais les 80 malades restent isolés à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. RMC, il est 7h33. Un bébé de 21 mois récupéré par ses parents avec 2,14 grammes d'alcool dans le sang. Oui, vous avez bien entendu, c'est en sortant de la crèche à Plailly, dans l'Oise, que cette petite fille de moins de 2 ans, donc, eh bien, elle ne tenait tout simplement plus debout. Ça s'est passé à la mi-mars. Paniquée, ses parents l'ont immédiatement conduite à l'hôpital. Et c'est alors Maxime Clier-Ruzat que les médecins ont découvert un inquiétant taux d'alcool dans le sang du bébé.
Oui, car en arrivant aux urgences, la famille s'imagine le pire, mais rapidement, les résultats des prises de sang tombent. La fillette de 21 mois a un taux d'alcool de 2,14 g dans le sang, l'équivalent de 8 verres de vin pour un adulte. Passé les questions aux parents, les médecins envisagent le syndrome d'autobrasseur, un phénomène rare qui transforme les glucides en éthanol, provoquant un état d'ébriété chez les personnes souffrantes. Finalement, pas de syndrome selon les médecins, leur bébé a simplement ingurgité de l'alcool. Quelques jours plus tard, les parents vont déposer plainte à la gendarmerie et sont depuis sans nouvelles de l'enquête. La crèche, fermée après l'hospitalisation de la fillette, devrait rouvrir dans le courant du mois de juin. Une situation qui ulcère les parents, toujours sans réponse de ce qui a pu arriver à leur fille. Cette dernière a depuis quitté l'hôpital et s'en sortira sans séquelles.
Les précisions de Maxime Clieruza pour RMC. Un pédocriminel pris en flagrant délit de proposition sexuelle en direct sur Internet. Ce sexagénaire de 66 ans, ancien professeur de sport, est actuellement en garde à vue. Une enquête a été ouverte après qu'un influenceur l'a piégé, se faisant passer pour une enfant de 14 ans à l'aide de l'intelligence artificielle. Donald Trump a été reçu ce matin avec les honneurs en Chine. Le président américain a rencontré son homologue, ne tarissant pas d'éloges sur Xi Jinping. C'est un honneur d'être à vos côtés, a-t-il déclaré, sur fond de négociations commerciales et de tentatives d'accord de paix avec l'Iran. Le chausseur français Minelli met la clé sous la porte. En redressement judiciaire depuis déjà le mois de mars, l'enseigne va définitivement fermer tous ses magasins à la fin du mois, mettant 86 employés au chômage, Cassandre Brault.
Plus de 13 ans que cette responsable de boutique travaille chez Minelli. Alors, la fermeture de l'entreprise, c'est un déchirement pour elle.
C'est pas simplement un emploi qu'on perd, c'est vraiment, entre guillemets, un certain bébé, une certaine identité à travers Minelli.
La salariée dénonce le rôle de la nouvelle direction.
La frustration, c'est que notre PDG n'a pas vu l'or qu'il avait dans les mains dans cette entreprise, en fait. Il n'a pas investi au bon moment, au bon endroit, au niveau de notre nouvelle collection. On se battait tous les jours quand on levait la grille, en fait, pour que le chiffre il augmente, pour faire vivre notre société.
Elle a aussi une pensée émue pour ses clientes, dont certaines qu'elle connaissait personnellement.
On voit beaucoup de tristesse par rapport à nous, parce que c'était le commerce un petit peu à l'ancienne, donc on connaissait plus ou moins tout le monde.
Dans cette boutique parisienne, les clientes sont venues acheter une dernière paire de chaussures.
C'est une marque que j'ai toujours connue, c'est une qualité correcte, pas très chère.
On est même très triste parce que c'était une bonne marque. Ça fait au moins 20 ans, je pense, qu'on va chez Minelli régulièrement.
On y est allé en famille pour chaque année avoir une bonne paire de chaussures.
Certaines clientes, les plus fidèles, ont même écrit directement aux vendeuses des boutiques pour leur adresser tout leur soutien dans cette fermeture.
Nicolas Sarkozy pourrait bien retourner en prison. En appel, hier, le parquet général a requis 7 ans d'emprisonnement à l'encontre de l'ex-président dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Nicolas Sarkozy, lui, continue de nier les faits. La Cour rendra sa décision le 30 novembre prochain. Le Paris Saint-Germain, champion de France de football pour la 14e fois, c'est la 5e même d'affilée. Les Parisiens se sont imposés 2-0 sur la pelouse de leur dauphin Lens hier soir. Mais Antoine Salva, eh bien, on ne sait toujours pas où ils vont le fêter, ce titre.
Oui, et pourtant la Ligue de football professionnel a bien demandé au Paris FC d'organiser la remise du trophée dimanche soir à l'issue du derby PFC-PSG, dernier match de la saison, fin de non-recevoir du promu qui a déjà prévu des festivités à Jean-Bouin pour rendre hommage à de nombreux joueurs sur le départ cet été. À la question où va donc avoir lieu la remise du trophée célébrant le 14e titre de champion, eh bien la réponse est loin d'être évidente et ressemble à un véritable casse-tête. Une certitude, ce ne sera pas au Parc des Princes, le PSG ayant vu la préfecture de police refuser pour des raisons de sécurité et l'idée d'une cérémonie organisée après ce derby parisien dans son antre à quelques dizaines de mètres le soir même. Certaines sources évoquent une célébration à l'hôtel de ville quelques jours après. Elle serait donc à l'étude, affaire à suivre.
Merci beaucoup Antoine Salva.
Et puis le quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 20h15.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favori c'est le 10 Freya et leur outsider l'As Omnicron.
Merci beaucoup Rachel, c'était le journal de 7h30, il est 7h38, on va accueillir Ali dans la Loire au 32-16. Bonjour Ali.
Bonjour Mathieu.
Conducteur poids lourd ce matin. Ali, vous réagissez à ce sujet, ce pédocriminel traqué sur Internet, un TikToker s'est fait passer grâce à une intelligence artificielle pour une adolescente de 14 ans. Victor, d'ailleurs, on a eu pas mal de réactions ce matin sur ce débat aussi sur la traque des pédocriminels.
Et on a Christian qui nous dit, par exemple, pourquoi pas, si ça permet de mettre ces gens hors d'état de nuire. Évidemment, nous dit-il, il y a la présomption d'innocence, mais ça peut peut-être permettre de retenir certains de passer à l'acte. Et on a aussi Eric qui nous envoie son message sur le WhatsApp pour nous dire que c'est une façon à privilégier. Il faut cependant l'encadrer par la loi.
Bah, c'est ce que disait l'avocat avec qui on était en ligne dans le parti pris à 7h10. Attention, il y a aussi le risque de mettre la puce à l'oreille de ce pédocriminel qui ensuite irait détruire les preuves qu'il a chez lui. Ali, ça vous a interpellé?
Ouais, ça m'a interpellé pour deux choses. La première, c'est les shérifs de TikTok, c'est bien, mais le problème, c'est ce qui va se passer, ils vont trouver un vice de procédure, et le problème, c'est qu'on le remettra en liberté. Et j'espère que me tromper, mais dans quelques années, on va réentendre que ce même personnage a sévi encore une fois et qu'il était sous le coup de la prison déjà.
Bah, il avait déjà été poursuivi une première fois, Ali, hein, si je puis me permettre, et condamné pour détention et diffusion d'images pédopornographiques.
Mais le problème, on sait très bien que demain, il va passer à la barre. Il y a un avocat qui va trouver un vice de procédure et ce sera entériné. Et merci, au revoir. Mais moi, ce que je veux surtout alerter, là où j'ai un vrai, vrai problème, j'ai entendu tout à l'heure votre avocat sur votre antenne qui parlait de l'État. Mais la vraie échelle de tout ça, pour commencer, c'est les parents, c'est pas l'État, c'est pas les parents. Comment des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans ou même moins se retrouvent sur Internet à faire des lives TikTok? On est tombé sur la tête. Aujourd'hui, les parents sont tombés sur la tête.
Alors, juste Ali, qu'on comprenne bien, je pense que vous avez compris le sujet, mais je le dis pour ceux qui seraient en train de se réveiller, cette adolescente de 14 ans n'existe pas. Il n'y a pas une adolescente de 14 ans qui était en live sur TikTok, c'est ça que je veux dire. C'est un TikToker qui s'est fait passer pour elle grâce à une intelligence artificielle. Ali, je sais que vous avez compris le sujet, je le précise pour ceux qui nous rejoindraient.
Ouais, mais j'avais bien compris le sujet, mais en fait, ce que j'ai aussi compris, c'est que là, on avait affaire à de l'intelligence artificielle, mais vous comme moi, on a des enfants, Mathieu, on va aussi sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, c'était de l'intelligence artificielle, mais hier, c'était des vrais enfants.
Bien sûr.
C'est ça qui me pose réellement problème. On vient cibler toujours l'État. On dit que l'État, c'est la
nounou. D'ailleurs, ce pédocriminel, il croit s'adresser à une enfant, donc tout est plausible. L'État défaillant, disait notre avocat à 7h10 ce matin, il y a un vrai enjeu, qui pour protéger nos gamins? Parce qu'il y a cette actualité-là. Il y a aussi, ce babysitter soupçonné d'avoir violé plusieurs enfants qu'il gardait alors qu'il a déjà été condamné il y a 6 ans. Comme Ali, vous réagissez au 32-16 ce matin. Merci Ali, vous êtes les bienvenus sur RMC. Il y a un sujet qui protège nos enfants. On en parle avec vous si vous le souhaitez. 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le SMIC augmente de 2,4% au 1er juin. Bonne nouvelle, pas pour les patrons. Le gouvernement envisage en plus de geler les allègements de charges pour faire des économies et le MEDEF est vent debout. Bonjour Charles Nati.
Bonjour,
porte-parole,
merci de m'accueillir
MEDEF
sur l'antenne.
Mais vous êtes le bienvenu, bien sûr, surtout que vous allez réagir à ces informations éco-sociales de la semaine. Vous promettez au MEDEF une réaction à hauteur des enjeux. Bon, laquelle, vous allez nous dire dans un instant, à tout de suite.
Jusqu'à 9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC, il est 8h moins le quart. La hausse du SMIC, plus 34€ net à compter du 1er juin. Bonne nouvelle pour les plus précaires, moins bonne pour le patronat. Et un problème comptable d'ailleurs pour l'État, vous allez comprendre. Bonjour Charles Nati.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole nationale du MEDEF, président du MEDEF Paris. Cette hausse du SMIC, c'est mécanique, automatique, c'est indexé sur l'inflation. Pour le ministre du Travail, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. C'est une bonne nouvelle pour les Français les plus précaires, Charles Nati?
Oui, c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui sont concernés. Le fait que les salaires augmentent, ça ne peut que aider, en particulier dans une situation, un environnement économique qui est le nôtre. Après, il faut regarder ce que sont les conséquences. De toute façon, le SMIC allait augmenter, hein, puisqu'il augmente chaque année. Là, le gouvernement anticipe un petit peu le timing. Et voilà.
Donc, alors justement, sur les conséquences, on va les explorer ensemble, Charles Nati, si vous le voulez bien. On a plusieurs questions, c'est un sujet qui est un peu technique comme ça, juste de dire que le SMIC augmente de 2,4%, ça a plein de conséquences et plein d'impacts. Une question notamment, je crois, d'Emilie, c'est ça, Victor?
Oui, c'est ça, Emilie, qui résume un petit peu une pensée générale dans les messages sur le WhatsApp RMC. Le SMIC qui augmente, très bien, mais quid des salaires qui sont juste un petit peu au-dessus de ce salaire minimum?
Alors ceux qui sont juste au-dessus deviennent mécaniquement SMICards pour certains. Vous allez, eux, les augmenter aussi?
Oui, alors ça, c'est le débat qui revient à chaque fois, c'est-à-dire quels sont les effets, comment les grilles sont réévaluées dans les entreprises. En réalité, ça dépend du dialogue social et de la manière dont les entreprises sont gérées. Et puis, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est en face, est-ce que la richesse du pays, est-ce que le produit intérieur brut, est-ce qu'il y a de la croissance? Parce que à un moment donné, il y a une chose que tout le monde peut comprendre, c'est que pour payer les salaires, il faut qu'il y ait de la croissance, il faut qu'on crée de la richesse. Or aujourd'hui, les entreprises, elles sont comme tout le monde, Elles sont confrontées à la hausse des prix de l'énergie, à la hausse des prix en général, et donc elles sont dans la difficulté. Donc c'est cet ensemble qu'il faut
Mais vous ne niez pas, parce que vous craignez les conséquences évidemment, et c'est vrai que l'économie, les indicateurs de croissance ne sont pas positifs, mais Charles Znaty, vous ne niez pas entre l'inflation, les prix des carburants, ce que vous décrivez d'ailleurs pour les entreprises dont vous parlez, vous ne niez pas qu'il y a un problème de salaire en France.
Ah, alors, si vous voulez, aujourd'hui, les hausses de prix, les hausses du prix des carburants, c'est les entreprises qui en supportent la charge la plus importante. Et qu'est-ce qui se passe en réalité?
Les particuliers,
c'est que ça se répercute sur les prix. Et donc, finalement, tout ça est lié. Donc, on voit bien que ce qui compte et ce qui aiderait tout le monde, ce qui aiderait à augmenter les salaires, ce qui aiderait à faire en sorte que ça fonctionne mieux, c'est qu'on ait de la croissance en réalité, qu'on crée de la richesse, qu'on crée de la valeur. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit, ça tombe pas du ciel, en fait.
Voilà. Alors, cette revalorisation du SMIC, elle fait gonfler la note pour les comptes publics. De 1,5 à 2 milliards d'euros. Je m'explique. Mais rappelons qu'on cherchait déjà 6 milliards. Je vais le dire simplement. Les entreprises bénéficient d'allègements de charges sur les bas salaires. Proportionnels, ces allègements de charges au salaire, bien sûr. Qui dit hausse du SMIC, dit hausse de ces allègements. Or, on apprend aussi que le gouvernement, Charles Znaty, réfléchit à geler ces allègements totalement ou partiellement. Vous dites quoi? Double peine pour les patrons?
Ah bah oui, je vous rejoins complètement, double peine, parce que en réalité, pourquoi est-ce qu'il y a des allègements de charges sur les bas salaires en France? C'est parce que la France, par rapport aux autres pays de l'OCDE, est le pays où les entreprises supportent un coût du travail qui est le plus élevé au monde. Donc forcément, l'État qui se préoccupe de la compétitivité de nos entreprises introduit des mesures d'allègement de charges, notamment sur les bas salaires. Et ça permet aussi de fluidifier le marché de l'emploi.
Alors, donc, précisément,
puisqu'il y a cette distorsion de concurrence, l'État se retrouve devant...
Vient compenser le coût du travail par rapport à la concurrence internationale.
Après, l'État se dit, alors si on augmente le SMIC, il va falloir que ça va nous coûter plus cher, et donc il va falloir que peut-être on considère renier sur les allègements de charges.
Mais alors ces allègements eux-mêmes, écoutez juste ce que dit Julien sur le WhatsApp RMC, Charles Znaty, un de nos auditeurs justement, parce que ce sont ces allègements eux-mêmes qui sont remis en cause.
Oui, Julien qui verra une proposition plutôt radicale, en tout cas que vous allez trouver radicale, j'imagine. Il nous dit que ces allègements de charges, il faut tout simplement les supprimer et en fait, en toile de fond, laisser faire le marché. L'entreprise qui doit survivre parce qu'elle est rentable, elle survivra.
Alors, il y a ce que dit Julien et il y a ce que dit la Fondation Jean Jaurès en septembre dernier. Je me suis penché sur ce rapport cette nuit. La priorité pour la Fondation Jean Jaurès, c'était sortir le salariat de la smicardisation, que la moitié des salariés du privé aujourd'hui sont entre un SMIC et un SMIC et demi, et que ces allègements de charges, précisément, ils empêchent les patrons d'augmenter les salariés précaires.
Oui, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a paumé pas mal d'auditeurs en chemin avec ce type de raisonnement.
Non, je pense qu'ils comprennent très bien que vous êtes aidé pour les bas salaires et pas pour les plus gros.
Non, ce qu'il faut voir, c'est que si cette histoire d'allègement de charges compense une inégalité, un problème de compétitivité du coût du travail en France. Donc, revenir dessus, le renier, serait de toute façon, au bout du compte, préjudiciable à l'emploi, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont très très dépendantes de ces allègements de charges et qui, aujourd'hui, renonceraient à créer des emplois ou renonceraient à embaucher si on vient à leur renier ces allègements de charges. Donc nous, le MEDEF et les autres organisations syndicales patronales, on dit à Bercy la semaine dernière, attendez, n'allez pas là-dedans parce que franchement, ça va encore rendre la situation encore plus compliquée.
C'est la menace du chômage. Ça, pour le coup, on a vu cette semaine aussi, qui repartait à la hausse à 8,1 au plus haut depuis 5 ans. Inquiétude, évidemment, vous parliez de la croissance, il y a l'emploi, les salaires, parce que ça reste que 34 euros net pour les salariés au SMIC. On continue de parler de ces sujets avec nos auditeurs aussi au 32-16. Merci mille fois, Charles Znaty, porte-parole du MEDEF, porte-parole national, président du MEDEF Paris, d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Il est 7h51. Et dans un instant, la voix de gauche d'RMC aujourd'hui, c'est avec vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle ce matin?
Ce matin, on parle de arrêter de faire flipper la planète avec l'antivirus ou un nouveau virus.
Papa.
Et pour ça, il va falloir protéger la biodiversité sérieusement.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Victor, ce matin, on part à la chasse au trésor.
Ah, il est difficile. Il est difficile ce blind test. Je vous donne la réponse. C'est la musique d'un jeu vidéo, Assassin's Creed Black Flag, où vous incarnez un assassin dans l'univers des pirates.
Il y a des Caraïbes,
on l'a. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, un remake d'Assassin's Creed Black Flag va sortir bientôt. Et pour cette occasion, le studio Ubisoft va lancer une véritable chasse au trésor avec un vrai trésor enterré quelque part dans les Caraïbes avec un butin d'une valeur de $500,000 tout simplement parce qu'il y a un vrai crâne de cristal à l'intérieur avec de vraies pièces d'or. Comment ça marche? Ben, comme souvent, faut payer minimum 35€ jusqu'à 200€ pour avoir accès à 15 énigmes. Elles sont toutes réalisables à distance, mais l'enquête est prévue pour durer de 2 à 5 ans. Ça fait long.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
La voix de gauche d'RMC, c'est vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
Alors, on parle de l'antavirus ce matin à nouveau. Aucun symptôme pour les 26 cas contacts français de la néerlandaise qui, elle, est décédée. Le monde entier retient son souffle. Et pour vous, ça irait mieux si on prenait soin de notre biodiversité?
Oui, parce qu'on aime un peu croire qu'une pandémie, c'est une sorte de catastrophe qui est tombée du ciel. Un virus mystérieux qui surgit tout d'un coup dans un monde tranquille. D'ailleurs, on rigole un peu jaune quand même, avec les rats à longue queue, avant avec les pandémies. Mais en fait, ça n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que nous créons une partie des conditions de ces pandémies. Parce que le plus grand risque de pandémie, c'est-à-dire d'une maladie qui touche les humains sur toute la planète, c'est une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui passe de l'animal à l'humain. Si on part depuis le début du XXe siècle, il y a eu la grippe de 1918 qu'on appelait la grippe espagnole qui a tué une personne sur 100 en France quand même, il faut se le dire, et que des jeunes, entre 20 et 40 ans. Et que la circulation a été massivement liée à la guerre. Mais ensuite, il y a eu le VIH, le sida, Ebola, le SARS et évidemment le Covid. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Des écosystèmes bouleversés, des forêts détruites, des zones humides asséchées, du coup, des contacts accrus entre humains et animaux, plus des circulations mondialisées. En fait, les pandémies, ça raconte notre manière d'habiter le monde.
Mais alors, concrètement, quel est le rapport entre une forêt détruite et un virus?
Eh bien, il est très direct, en fait. On a le sentiment que c'est très éloigné, mais pas du tout. Quand on détruit une forêt, les animaux sauvages, ils disparaissent pas. Ils se déplacent. Les chauves-souris, grand réservoir à virus, les rongeurs, les primates se rapprochent des villages, des élevages, donc des animaux domestiques, des cultures, et les virus, bah, ils voyagent avec eux. Et les scientifiques ont très bien documenté ce phénomène dans plusieurs émergences virales récentes. Donc il y avait des virus qui circulaient discrètement dans la faune sauvage et tout d'un coup, ils trouvent des opportunités pour franchir la barrière des espèces. Et alors, si c'était que les animaux sauvages, mais on rajoute une couche. La deuxième couche, c'est les élevages industriels. Là, vous avez des milliers d'animaux qui sont génétiquement très proches, qui sont très concentrés et qui sont une sorte de réservoir à mutations virales. C'est des fabriques, on appelle ça scientifiquement des fabriques à variants. Et c'est pas un hasard si les experts surveillent de manière obsessionnelle les grippes aviaires, c'est les plus dangereuses en fait, parce que ça fait les drames qu'on connaît, dont on a parlé ici, les abattages massifs. Mais il faut le dire, les scientifiques sont quand même, quand on lit la littérature scientifique, paniqués à l'idée d'une pandémie où le Covid, ce serait une plaisanterie, c'est-à-dire un virus très contagieux et très mortel.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh ben d'abord, il faut parler d'un concept qui a un nom anglais. Donc si vous en entendez parler, je vais vous le dire, c'est One Health. Si on traduit en français, ce serait une seule santé, qui repose sur une idée
one
qui
health,
est
pas One what Health, health. Des machines à café.
Non, One Health, une seule santé. Et c'est un concept très simple en fait, ça dit que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, de l'environnement sont indissociables, qu'on peut pas penser la médecine d'un côté et l'agriculture et l'environnement à part. Ça marche pas parce qu'en réalité tout communique et qu'une forêt détruite, ça peut devenir un problème hospitalier quelques années plus tard. Et de la même manière, l'usage massif d'antibiotiques dans des élevages, ça peut produire des bactéries résistantes qui arrivent ensuite dans nos services de réanimation et qui peuvent décimer l'espèce humaine. Et pourtant, c'est ça qui est dingue, c'est que nos politiques publiques restent organisées de manière séparée. Et je le dis, on pense parfois que la biodiversité, c'est un sujet décoratif, alors qu'en fait, c'est aussi un sujet de santé publique. On entend parler souvent de backlash écolo, que les écolos fatiguent. Alors déjà, il faut le dire, et je le dis du haut de mon grand âge, c'était vrai ce que disaient les scientifiques sur le réchauffement climatique. C'est vrai aussi sur les conséquence de la perte de biodiversité. On dit souvent que l'homme n'a pas de prédateur. En fait, on peut avoir un prédateur très très dangereux qui s'appelle un moustique avec un virus létal pour l'être humain.
C'est quoi les solutions, Cécile? Parce que les scientifiques, vous le dites, disent qu'il faut agir maintenant. Il y a des solutions?
Eh ben, il faut agir maintenant parce que le risque augmente. Et donc, c'est très simple en fait. Préserver les écosystèmes, c'est moins cher qu'arrêter l'économie mondiale. Surveiller les virus dans les élevages, c'est moins cher qu'un confinement généralisé et c'est plus vivable. Donc, investir dans les systèmes de santé, c'est moins cher que gérer une catastrophe sanitaire mondiale. Donc, One Health, c'est une façon différente de penser aussi l'écologie, de penser ça comme une politique de sécurité collective. La biodiversité, c'est pas un luxe, c'est pas un sujet marginal, c'est une garantie sanitaire. Parce que, du coup, la question, ce sera pas comment réagir à la prochaine pandémie, mais comment arrêter de fabriquer les conditions de la suivante. C'est ça le sujet. Et honnêtement, dites-vous bien que ceux qui défendent les zones humides, bah, ils défendent finalement des libellules qui vont manger des moustiques et que tout ça, ça nous permet de rester en bonne santé et d'éviter de se retrouver de nouveau confinés.
Merci beaucoup Cécile Duflo, la voix de gauche ce matin, à partager en podcast si vous le souhaitez sur l'application RMC, à suivre la météo, le journal de 8h et Emmanuel Le Chypre pour l'économie. Vous apprendrez que la taxe sur les petits colis qui devait rapporter gros rapporte pas tant que ça. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h passées de 1 minute, vous êtes sur RMC. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cette affaire glaçante ce matin d'un ancien enseignant piégé sur Internet en train de faire des avances sexuelles à ce qu'il pensait être une adolescente de 14 ans. Il est en garde à vue depuis deux jours et vous allez entendre le témoignage RMC d'une ancienne élève, puisque le professeur avait déjà fait l'objet d'un signalement par le passé. On va vous raconter déjà l'image du jour, celle de Donald Trump et de Xi Jinping cette nuit en Chine. On assiste en ce moment même à un sommet entre les deux grandes puissances. Et puis l'annonce du jour, ce sera ce soir, 20h. On vivra ça sur RMC, la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de football.
Et cela fait donc deux jours qu'un ancien professeur de sport est en garde à vue à Vesoul après être tombé dans un piège sur Internet.
Oui, un homme de 66 ans, ancien directeur du sport scolaire de Haute-Saône, qui s'est présenté de lui-même à la police d'ailleurs après avoir fait des avances sexuelles à une adolescente de 14 ans sur Internet. Alors l'adolescente était en fait un piège, elle n'existait pas, elle était générée par intelligence artificielle, piloté par un influenceur se présentant comme un chasseur de pédocriminels en ligne. La séquence a été diffusée sur Internet. Et alors depuis, Constance Bostoen, vous avez recueilli le témoignage RMC d'une ancienne élève de cet homme qui avait déjà fait parler de lui.
En 2013, Maëlys n'a que 12 ans quand elle rencontre le sexagénaire dans le cadre de l'Union Nationale du Sport Scolaire. Très vite, il l'ajoute sur les réseaux sociaux.
Il a commencé à m'envoyer des messages. Au tout début, c'était assez bienveillant et c'est devenu un petit peu trop bienveillant. Et on a divagué sur du « Est-ce que tu dors toute seule ? Est-ce que tes parents vérifient ta chambre ?» Après, il m'a dit « C'est vrai que je t'apprécie beaucoup, t'es vraiment jolie. »
Les échanges se poursuivent pendant plus de 6 mois et selon elle, le professeur de PS en profite.
Je me souviens d'une rencontre UNSS, donc c'est sur de l'athlétisme, c'était à Vesoul, où là, il était venu me voir, il m'avait pris à partie, il m'avait dit « Voilà, maintenant, faut que tu me fasses un bisou pour me dire bonjour, mais attention, faut que personne ne nous voit. » Après, je me souviens qu'il me prenait énormément en photo.
Elle finit par se confier à ses parents qui la conduisent immédiatement déposer une main courante. Lundi, soit 13 ans plus tard, Maëlys tombe sur une vidéo de l'homme en train de faire des avances à ce qu'il pense être une adolescente de 14 ans. Il est en fait piégé en direct par un streamer.
Et j'ai la haine parce que j'étais une enfant, j'y ai pensé beaucoup, mais je veux surtout prendre la parole pour toutes les petites jeunes qui n'osent pas parler.
Maëlys pense désormais déposer plainte.
Autre affaire à Lille, où un babysitter de 37 ans vient d'être mis en examen pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur 18 enfants, des enfants qu'il a gardés, alors que cet homme avait déjà été condamné il y a 6 ans à Nice à une peine de 5 ans de prison pour agression sexuelle sur un enfant de 2 ans et qu'il avait l'interdiction d'exercer un métier en contact avec des mineurs. On reparle ce matin de la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenck en février dernier à Lyon. Enfin, c'est surtout l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui en a reparlé hier soir lors de son nouveau rendez-vous médiatique qui est diffusé en ligne. Il a fait applaudir à cette occasion le député Raphaël Arnaud, dont des proches sont impliqués dans l'affaire. Et il a dit aussi que la séquence avait permis à LFI de gagner, selon Jean-Luc Mélenchon, 3 à 4 000 adhérents. Les patrons On vient de les entendre d'ailleurs, le MEDEF hein, sur RMC ce matin, sont en colère. On est au lendemain de l'annonce de la hausse du SMIC de 2,4% au 1er juin. C'est un effet mécanique qui est lié à l'inflation, ça c'est ce que dit Bercy. Et ce qui met en colère les patrons en fait, c'est que pour faire des économies, le gouvernement envisage de geler les allègements de charges pour les entreprises. Toujours est-il que 2,4%, ça fait concrètement 34 euros net de plus en moyenne à la fin du mois pour les salaires les plus bas, Vincent Chevalier à Lyon pour RMC.
Peu importe le montant, une augmentation du SMIC est toujours une bonne nouvelle pour Aïcha.
Mieux que rien, mais ça va, on peut faire quelque chose à 45 euros.
Environ 45 euros brut, soit 34 euros net par mois. Vraiment pas de quoi être satisfait selon Raphaël et Dany.
Je sais pas ce qu'on va pouvoir s'acheter en plus,
c'est pas assez.
Tout est bon à prendre, mais on donne là, on prend ailleurs, c'est triste. Pour l'inflation qu'il y a derrière, quoi. Le prix d'énergie et tout ça, non, c'est une miette.
Ça n'a pas changé notre vie en tout cas.
C'est une miette.
Mais cette hausse du SMIC s'accompagnerait d'un surcoût de plus d'1,5 milliard d'euros pour l'État à travers les allègements de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises sur les bas salaires. Le gouvernement envisage donc de les geler.
Je pense que le gouvernement joue avec le feu.
Comme Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité, les syndicats patronaux sont en colère.
C'est un coût du travail encore plus élevé pour les entreprises et donc tout ça. Ben c'est mécanique. Si les entreprises elles défaillent et qu'elles s'en sortent pas, elles licencient, elles ne recrutent pas.
Cette mesure d'économie budgétaire n'est pas encore actée, mais selon les informations de RMC, une décision devrait être prise assez rapidement.
La question est très simple. 34 euros net pour les salariés au SMIC. Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des plus précaires. Coup dur pour la trésorerie des patrons. Vous témoignez au 32-16 ce matin.
Alors pendant ce temps, on assiste en direct à la visite de Donald Trump en Chine. Elle est presque historique puisque ça faisait 9 ans que ce n'était pas arrivé. Le tapis rouge a été déployé. Et Donald Trump a pris la parole dès le tout début de ce sommet entre les deux grandes puissances.
Nous allons avoir un avenir fantastique ensemble. J'ai beaucoup de respect pour la Chine. Vous êtes un grand leader. Je le dis à tout le monde, vous êtes un grand leader.
Bon, Lucas Laubert pour RMC, on a très bien compris hein, cette nuit, dès le début de la visite, que Donald Trump était en opération séduction.
Oui, le président américain change radicalement de ton par rapport à son premier mandat parce qu'il sait qu'il a besoin de la Chine. D'abord pour le dossier iranien, pour tenter de rouvrir le détroit d'Hormuz. Une intervention diplomatique de Pékin, alliée de l'Iran, pourrait l'aider à parvenir à un accord avec Téhéran. Donald Trump vient aussi pour conclure des accords commerciaux. À ses côtés, en Chine, de nombreux chefs d'entreprise américains. Il espère infléchir la guerre commerciale, obtenir l'ouverture du marché chinois et la confirmation d'une commande massive d'appareils auprès de Boeing. Des accords qu'il voudra revendiquer comme des victoires. Mais en face, Xi Jinping, en position de force, veut obtenir en contrepartie des inflexions de Donald Trump, en particulier sur Taïwan, île toujours revendiquée par la Chine. Et ce matin, le président chinois met la pression. Si la question est maltraitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit.
Bon, le ton est d'ores et déjà donné et Donald Trump accueillera, vous savez bien, dans moins d'un mois, avec le Canada et le Mexique, bien sûr, la Coupe du Monde de football. Et c'est un peu aujourd'hui que cette aventure va commencer, puisque c'est ce soir, aux 20h de TF1, que Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs qui vont s'envoler pour ce mondial, Fabrice Hawkins.
Pas de révolution dans le groupe que va amener Didier Deschamps à la Coupe du Monde, mais des incertitudes. La première concerne le troisième gardien. Qui pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba? Le Parisien Lucas Chevalier a perdu l'avance qu'il avait au fil de la saison. Remplaçant au Paris Saint-Germain, il n'est plus sûr de faire le voyage aux États-Unis. Alphonse Areola lui a participé au Mondial 2022, mais joue peu à West Ham. Enfin, Robin Risser pourrait créer la surprise, mais le Lensois n'a jamais été appelé. Il connaît peu le groupe, ce qui pourrait être rédhibitoire. Au poste de milieu de terrain, Adrien Rabiot, Manu Koné ou Aurélien Tchouaméni sont sûrs d'être dans la liste, contrairement à Eduardo Camavinga, pour qui le doute subsiste. Ses performances sont assez décevantes. En attaque, il faudra surveiller la situation de Randal Kolo Muani. Son rendement a été très faible avec Tottenham cette saison. Un seul but seulement en championnat, mais il garde la confiance du sélectionneur Didier Deschamps. Okay.
Alors l'annonce de la liste, ce sera en direct ce soir à 20h sur RMC, radio officielle de ce mondial, qui sera d'ailleurs le témoin du changement climatique, écrivent ce matin les scientifiques dans un vaste rapport là qui vient d'être publié. Ils alertent sur les conditions météo extrêmes pour un quart des matchs en termes de chaleur et d'humidité. 5 matchs ont même été désignés comme étant dangereux. Tiens, et puis je vous signale que ce matin, le Paris Saint-Germain est champion de France de football. 14e Ligue 1 remportée par le PSG. Bon, c'est officiel, hein, c'est une formalité, mais c'est officiel depuis hier soir, et la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 à Lens.
Je prends vos félicitations quelque part.
Oui, je sens que ça. En revanche, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas quand, où et comment Paris va soulever ce trophée.
Oui, parce que le dernier match est prévu chez
le voisin du PFC,
le nouveau
qui joue
rival, on peut dire le PFC, le Paris Football Club, qui eux-mêmes devaient fêter leur fin de saison. Bon, c'est le bazar.
Ouais, tous chez Mathieu Béliard. Ce soir.
Il faut peut-être réserver. Merci, je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Et puis c'est loin, hein. Enfin, là, vous savez, Victor, il y a un peu de route. Merci beaucoup, Quentin Vidal. C'était le journal. Vous restez bien sur RMC. On va parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. La taxe sur les petits colis. Alors, on apprenait dans les journaux d'RMC que Minelli va fermer. Le vendeur de maroquinerie de chaussures, la taxe sur les petits colis rapporte beaucoup moins que prévu.
Oui, alors le principe de cette taxe petit colis imposée par la France, bah c'était justement d'essayer d'enrayer le déferlement de marchandises ultra low cost importées d'autres pays que ceux de l'Union européenne. Le but, c'était effectivement de viser des plateformes chinoises hein, comme Temu, Shein ou AliExpress, notamment pour essayer de défendre une forme de production européenne ou nationale en termes de vêtements notamment. Cette taxe de 2 euros par catégorie d'articles sur les colis de moins de 150 euros, elle était censée rapporter près de 35 à 40 millions d'euros par mois à partir de mars 2026. Les premiers résultats sont pour le moins décourageants, puisque les premières évaluations font état de recettes de 2,3 millions d'euros seulement, ah oui, selon les douanes.
Par mois ?
Par mois.
Pour quelle raison ?
Donc, c'est 10 fois moins que ce qu'on attendait.
Infime. Pour quelle raison les rentrées fiscales ne sont-elles pas au rendez-vous, Emmanuel ?
Alors, si seulement... C'est parce que d'un seul coup, les Français avaient pris conscience que finalement, il fallait acheter français et qu'ils avaient décidé de renoncer à aller s'approvisionner sur les plateformes. Bon, on se dirait, quelque part, cette taxe, elle a atteint son but. Mais malheureusement, la principale explication, ça n'est pas ça. C'est que les grandes plateformes chinoises visées envoient désormais leurs colis dans d'autres pays européens, comme la Belgique et les Pays-Bas. Puis ces colis sont acheminés tranquillement en France par la route. Résultat, 90% du trafic aérien a été perdu pour les aéroports français. On est passé de 500 000 à 50 000 déclarations par jour. Donc, si on fait le bilan, ça rapporte rien. Ça a détruit de l'activité dans nos aéroports, dans nos centres logistiques. Alors, certes, on nous dit que c'est une situation transitoire. En attendant la taxe européenne, et là, effectivement, si vous allez vous implanter en Belgique ou aux Pays-Bas, ça changera pas grand-chose. Sauf que ce qu'on voit, c'est que les plateformes chinoises sont déjà en train de s'adapter. Elles sont en train de s'européaniser avec des entrepôts qu'elles sont en train d'installer un peu partout. Donc, elles vont effectivement venir investir en Europe et créer de l'emploi en Europe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais elles vont rester les championnes incontestées du commerce en ligne.
Alors, les prix du jour, on surveille avec vous tous les jours les prix des énergies, Emmanuel ?
Eh ben, c'est plutôt calme ces derniers jours. Le gazole, on est toujours autour de 2,15 euros le litre. C'est stable. C'est quand même en baisse par rapport à il y a une semaine. Le sans-plomb 95, on est toujours sur ce plateau très élevé au-dessus de 2 euros 3 centimes le litre. Le pétrole, toujours sous tension, hein, 106 dollars le baril. Et le gaz est stable. Lui à 46 euros le mégawatt-heure.
Pétrole qui s'est tranquillement installé au-dessus des 100 dollars.
Oui, alors il y a eu quelques.
Pas sur les pics d'il y a quelques jours.
Non, alors il y a quelques jours, on était plutôt dans la fourchette 90-100.
Ouais,
là, on s'est plutôt installé dans la fourchette.
5-6 depuis.
Oui, mais on est plutôt là dans la fourchette 100-110 maintenant.
Et vous le sentez évidemment, ça pèse sur votre pouvoir d'achat, sur l'achat de petits colis venus de Chine. Enfin, on pourrait presque faire le lien. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, c'est le géopolitologue Frédéric Cancel qui publie « La guerre mondiale n'aura pas lieu » chez Odile Jacob. Et juste après, face à Conteloup, en direct, à 8h50. Oui, oui, en direct, on est en direct ce matin. Il n'y a pas de jour férié sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours Demange.
Et oui, c'est tous les jours lui. Et bonjour,
Arnaud Demange, bonjour.
Bonjour les amis.
Salut,
bonjour
Arnaud.
Tout le monde, ça va bien ?
Ça va pas mal.
On n'est pas bien là, tranquille, un jour férié à travailler pendant que les autres se font chier à la maison. Quand même, quoi. On est mi-mai, le festival de Cannes a commencé. Ouais. Roland-Garros, c'est dans une semaine, ouais. C'est le pont de l'Ascension. Et vous savez ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire qu'on est dans la période, on n'a plus envie de bosser en attendant les vacances. Ça y est, joyeux presque en vacances, Mathieu. Joyeux presque en vacances, Élise.
Moi, j'y suis déjà.
C'est formidable. Alors, je me suis renseigné, c'est une tradition exclusivement française.
Hein. N'est-ce pas ?
Oui, j'en ai parlé avec une copine allemande qui m'a dit « Mais vous, vous êtes toujours en congé. Nous, le 8 mai, on bosse. Voilà, on aime le travail. » Non, vous n'aimez pas le travail. Vous avez perdu la guerre. C'est très différent. Vous avez
avez tous été des nazis, et ben maintenant vous êtes punis. Voilà. Allez, l'actualité, c'est bien sûr le hantavirus. Alors le patron de l'OMS s'est voulu rassurant. Je l'ai écouté, il a déclaré « le risque est faible ». Bah évidemment. Vous savez qui c'est le patron de l'OMS ? Ouais. C'est Tedros Adhanom Ghebreyesus, c'est l'ancien ministre de la Santé éthiopien. Alors oui, j'imagine que pour lui ça va. Quand dans ton pays t'as Ebola, la famine, le chikungunya, la fièvre jaune et la malaria, un virus qui fait trois morts sur un paquebot rempli de vieux, bah ça fait une semaine assez calme. Oui, je me doute que vous savez qui c'est, évidemment. Alors, on le sait, le virus se transmet par les souris. Vous voyez que c'est très important ça, parce que Gabriel Matzneff a même refusé de coucher avec un petit rat de l'opéra, de peur d'être contaminé. Tout le monde flippe, hein. Tout le monde. Alors là, les enfants, si vous nous écoutez, c'est pas le moment de perdre une dent. La petite souris a l'air vénère. C'est un peu comme si Mickey avait la rage. Vous voyez, que vous alliez à Disney et qu'ils vous disent « Oh, salut, c'est Mickey !» Je vais te défoncer! Qu'est-ce que tu fous sur mon terre-terre, petit narvalo? Ah! Oh, c'est que je suis un malade, moi je vais te maraver! Mais Ratatou, il vient, on le termine à deux!
Ah! Oh. Oui. De Mickey, c'est vraiment ça!
Bah ouais, mais c'est. Oh.
Donald Trump est en visite officielle en Chine.
Oui, alors, on est en direct sur BFM TV pour suivre cette visite avec notre envoyé spécial à Pékin, Ulysse Grossier. Ulysse, vous nous entendez? Elle marche pas, cette oreillette de merde. Ulysse Grossier. Ulysse Grossier, vous êtes là? Ouais, ma couille. Vous êtes à l'antenne, Ulysse Grossier. Ouais, je sais. Commence pas à me péter les noyaux. Sinon, je te laisse en plan avec ton duplex de naze, là, puis je vais bouffer. Putain, nom de là. Vous êtes trop grossier, Ulysse. Alors, la rencontre entre Trump et Xi Jinping. Bon, le nouache, il est allé serrer la pogne au blaireau de la Maison Blanche. Il va le retourner comme une crêpe, hein. Puis Trump Pounet, il va repartir avec une main devant, une main derrière, à poil. Voilà, ça lui rappellera les soirées Epstein à cette tête de nœud. Bon bah, merci Ulysse Grossier. Y a pas de quoi, ma couille. Désolé. Ulysse Grossier.
Alors, le petit Robert a présenté les nouveaux mots de son édition 2027.
Oui, alors il y a fast fashion, crush, narcomicide. Chaque année, en fait, ils en ajoutent pour. Voilà, tous les phénomènes de société qui apparaissent. Chaque année, ils font ça. C'est-à-dire qu'en 2095, leur dictionnaire, il va finir par dépasser les 95 kilos. Ou alors, il faut enlever des mots au fur et à mesure. Je crois. Des mots propres qui servent à rien, comme croissance, emploi, François Bayrou, etc. En tout cas, c'est l'occasion. Allez, c'est l'ascension, on se détend. Petit quiz.
Ah oui,
ce mot est rentré dans le dictionnaire. Attention. Manosphère.
Oui.
Oh, oui. Il désigne les gens qui sont bourrés au mariage et qui chantent dans la vallée. C'est la manosphère. Bon, en vrai, c'est la communauté des masculinistes. Dictionnaire, oui. Dinguerie, qui est un mot utilisé pour décrire la candidature de François Hollande en 2014. Incel, qui désigne un homme qui n'a jamais couché avec une femme et qui, du coup, utilise tout son temps libre pour expliquer sur Internet comment on couche avec une femme.
Oui.
Il y est,
bien cette définition, par contre.
Se faire matrixer.
Non. Oui.
Si, il est rentré. Ouais, ça veut dire se faire conditionner. Ça vient du film Matrix, évidemment. Se faire tuchcatriser.
Non.
Se faire arnaquer de 20 balles. Ça vient du film Les Tuches 4. Se faire maman, j'ai raté l'avionisé.
Non.
Dire,
non.
Se faire abandonner par ses parents. Charo.
Oui.
Qui désigne un incel qui a réussi. Pour ceux qui sont familiers avec les Pokémon, c'est l'évolution de l'incel. Donc, c'est les nouveaux donjons.
Ah ouais. Ou Aurel Gage.
Elle suit, elle est abonnée au podcast d'Arnaud Demange.
Aquafaba.
Quoi?
Alors, Aquafaba, qui désigne une eau de cuisson des légumineuses à la texture gélatineuse après réduction. Oui, évidemment, puisque c'est un mot que seul Mathieu Béliard utilise.
Clairement.
À cause de vous, il est rentré là-dedans. Il a harcelé les rédacteurs du Petit Larousse en leur disant et moi, à chaque fois que je cuisine un velouté de lentilles déstructurées avec réduction tellurique et tension chlorophyllienne, comment vous voulez que je désigne l'eau de cuisson à la texture gélatineuse qui est après la réduction des légumineuses? Et voilà, c'est vrai qu'il fallait un mot pour l'avoir. Et ben vous l'avez eu, Mathieu.
Aquafaba, c'est pas mal.
Bravo, Aquafaba. Ouais. Et à demain.
Ah, quel chute. Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours en podcast. Et en tournée, Montpellier, Gaillac, Lille, Toulouse, Biarritz, Dijon, Creutzwald. Et ce soir, à Paris, au solo. Pas en solo.
Mais
l'erreur la dernière
deux.
Fois. Voilà,
deux.
Vous êtes deux. C'est un spectacle RMC, bien entendu. Pierre est en ligne avec nous à Ajaccio, en Corse du Sud. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
Comment ça va, Pierre?
Ça va très bien, on travaille.
Vous êtes boulanger, vous avez une petite entreprise et vous avez réagi à la question des salaires. 34 euros net pour les salariés au SMIC, je ne sais pas combien sont payés vos salariés. Est-ce que vous pouvez assumer cette hausse du salaire?
En fait, c'est bien simple. Voilà. On va assumer, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Sauf que, 34 euros pour les SMICards, moi, j'en ai pas. OK? Donc, ça leur fera sûrement un peu moins sorti. Le fait est, c'est que c'est pour l'entreprise que ça va poser un problème. Maintenant, le gouvernement, d'après ce que j'ai entendu sur votre antenne, a besoin de 6 milliards. Il cherche 6 milliards, donc on va aller les chercher sur les entreprises et on va supprimer certains.
On n'entend pas ces allégements de charges. En fait, il faut juste que je le redise d'un mot pour nos auditeurs qui nous auraient rejoints. Sur certains salaires, bas salaires, il y a des allégements de charges. Ce sont des aides de l'État pour maintenir l'emploi. La réalité, c'est que si on augmente ce SMIC, on augmente proportionnellement les charges qui vont avec, et donc l'allègement de charges, ce qui fait qu'il pourrait y avoir un manque à gagner d'1,5 à 2 milliards d'euros pour l'État, qui pourrait donc geler ces allègements de charges, voire en supprimer certains.
Voilà. Donc c'est bien simple. C'est toujours les entreprises qui vont payer. Moi, je vais vous dire franchement, mes employés, j'essaie de les payer le mieux que je peux. Et quand je les paye plus, je suis content. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on arrive à un moment où la conjoncture ne suit pas. Pour augmenter les salaires, faut qu'on travaille. Et qu'on travaille un peu plus. Parce que si on travaille comme l'année dernière, les salaires, excusez-moi, mais c'est comptable. Au gouvernement, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas s'ils savent compter, mais c'est comptable. Si on gagne pas, si on n'a pas plus en bénéfice, on ne peut pas augmenter de salaire.
C'est un peu ce que disait Charles Nathil, porte-parole du MEDEF, qui était en ligne avec nous à 7h40 tout à l'heure, c'est que le maître mot derrière tout ça, c'est la croissance. S'il n'y a pas de croissance, on ne va pas tenir sur ces augmentations. Vous continuez à réagir sur cette question. Merci Pierre Boulanger, en Corse ce matin, en direct avec nous. Merci beaucoup. Vous venez réagir à ce que vient de dire Pierre, que vous soyez salarié ou patron, on vous attend au 32-16. Il est 8h23 dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV avec Frédéric Ancel qui publie La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. Il répond aux questions de Marie Chantrelle.
Merci d'écouter RMC, 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Rachel Sadodine.
Des nouvelles rassurantes au sujet de l'antivirus. Aucun des 26 Français cas contact ne présente de symptômes. 4 enfants ont été testés négatifs. Les résultats des tests des adultes devraient être connus dans la journée. Pour le moment, ils restent à l'isolement. C'est un honneur d'être à vos côtés. La déclaration d'amour de Donald Trump à Xi Jinping ce matin, en visite à Pékin sur fond de négociations de paix avec l'Iran notamment. Eh bien, le président américain affirme que les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleur que jamais. Et son homologue de renchérir, nos pays doivent être partenaires, pas rivaux. Une seule ombre au tableau, une tout de même, la question de Taïwan. Xi Jinping est clair, les États-Unis et la Chine pourraient entrer en conflit si Washington gérait mal la question. Nicolas Sarkozy risque de retourner en prison. 7 ans d'emprisonnement, voilà ce qu'a requis le parquet général hier au procès en appel du financement libyen présumé de la campagne de 2007, avec aussi 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. La Cour doit rendre sa décision le 30 novembre prochain. Madonna, Shakira, le groupe de K-pop coréen BTS, ils seront tous à l'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis. Les organisateurs l'ont annoncé ce matin. Et puis la météo, une journée très perturbée, agitée, avec au programme des giboulées sur quasiment tout le pays. De nombreux nuages, des éclaircies très rares, et puis il neigera même en montagne à partir de 1300 mètres. Un petit peu plus de soleil près de la Méditerranée, mais il y aura du vent, notamment de la Côte d'Azur à la Corse. Et puis les températures, elles sont toujours très très fraîches, entre 2 et 15 degrés.
Merci Rachel Sadodine, c'était le rappel des titres. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrelle reçoit Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po. Il a publié La guerre mondiale n'aura pas lieu chez Odile Jacob. C'est dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face-à-face. Marie Chantrelle.
Il
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à sciences politiques. Et votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. On va espérer peut-être avec vous ce matin aux éditions Odile Jacob. Je le disais, l'image de la nuit, Donald Trump, Xi Jinping, côte à côte, faste chinois, visite d'État à Pékin, reçu en majesté le président américain. Dans ce type de visite, on le sait, il y a la forme, il y a le fond. On va s'attacher ensemble aux deux ce matin. Mais d'abord, ces échanges d'amabilité, Donald Trump qui prédit un avenir fabuleux entre les États-Unis et la Chine. Frédéric Ancel, est-ce que c'est du grand théâtre ou ça peut aboutir à quelque chose?
Ah, moi, je pense qu'il est assez sincère. D'abord parce que Trump aime beaucoup le faste, effectivement. Mmh. Il aime beaucoup le protocole, surtout lorsque on lui en fait et on lui en donne beaucoup. Et c'est le cas. Les Chinois savent recevoir, surtout ils savent recevoir des gens puissants. Donc là, on est, si vous voulez, sur un rapport de force bien compris. Bien sûr que on fonctionne à la manière d'une pièce de théâtre, mais sur le fond, il est extrêmement important de comprendre que Trump, un, aime les pouvoirs forts, et le pouvoir chinois, le Parti communiste chinois, le moins qu'on puisse dire, est qu'il est fort et même tout à fait dictatorial d'ailleurs. Il aime les hommes d'État forts. Xi Jinping démontre que c'est un véritable stratège. Ça, c'est incontestable. Et puis, trois, il a énormément de choses à demander, notamment sur le plan économique. Je donne simplement un chiffre. Chaque année, vous avez un peu plus de 700 milliards de dollars de volume d'échange entre les deux premières puissances économiques du monde. Or, là-dessus, les États-Unis sont déficitaires de manière écrasante. Et ça, Trump, il ne le tolère pas.
Oui, avec des échanges d'amabilité, on le disait, comme j'en ai peu connu, sa rencontre avec Xi. Vous parliez du faste auquel le président Trump est sensible. Là, encore une fois, le sous-texte, c'est quoi? Cette rencontre peut aboutir peut-être dans sa guerre face à l'Iran à quelque chose à laquelle il n'arrive pas à aboutir aujourd'hui. Parce qu'on a quand même un président en difficulté aujourd'hui, un président américain qui apparaît fragilisé.
Alors, je vais vous surprendre. Moi, je pense que ce qui l'intéresse avec la Chine, c'est pas tellement l'Iran, parce que au fond, la Chine, contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs, me semble-t-il, beaucoup trop pressés ou trop paresseux. La Chine n'intervient pas directement au Moyen-Orient. Elle ne le veut pas ou elle ne le peut pas, notamment sur le plan militaire. Ça fait des années qu'on nous dit, ce qui est vrai d'ailleurs.
Elle ne le veut pas ou elle ne peut pas. Pardonnez-moi, c'est très important. Elle ne le veut pas.
Elle ne le veut pas parce qu'elle ne pourrait pas défier sérieusement sur le plan militaire les États-Unis et notamment au Moyen-Orient. Or, ces dernières années, on nous a beaucoup dit que les Chinois ouvraient des bases. Alors, c'est vrai qu'ils ont une base aujourd'hui à Djibouti. C'est pas une base très très importante. Bon, et que la flotte, notamment de combat chinoise, est devenue la première au monde numériquement parlant. Oui. Enfin, moi, ce que je constate, c'est qu'au Moyen-Orient, pour l'instant, la jugulaire pétrolière, elle est tenue par les États-Unis et les Chinois n'interviennent pas. Moi, je pense que c'est surtout sur le plan économique que le président Trump veut obtenir des choses, je le disais il y a un instant. Ce qui le passionne, c'est l'économie, c'est le mercantilisme absolu, c'est pas tellement les questions politiques et militaires.
L'art de faire du deal, encore une fois, le business maker qu'est Donald Trump, on y revient.
Exactement, et sachant, encore une fois, j'insiste, c'est très important, que la Chine dispose face aux États-Unis aujourd'hui d'une une balance commerciale, en quelque sorte, qui est extrêmement bénéficiaire au détriment des États-Unis. Et ça gêne beaucoup plus considérablement Trump que les questions proche-orientales, y compris l'Iran.
Mais c'est un point sur lequel vous me surprenez ce matin, Frédéric Ancel, parce que les liens entre Pékin et Téhéran sont établis, documentés. Moi, je pensais véritablement qu'il pensait aujourd'hui que Pékin, Xi Jinping, puisse influencer la position iranienne. Selon vous, il n'en est rien.
À la marge.
À la marge.
Je vais vous dire pourquoi à la marge. Alors, il est vrai que la Chine importe la quasi-totalité du pétrole iranien aujourd'hui.
Autrement dit, 80%.
Alors c'est ça.
Et aujourd'hui, c'est gigantesque.
C'est gigantesque. Et aujourd'hui, l'Iran est une économie ce qu'on appelle mono-exportatrice. Autrement dit, plus de 90% des exportations iraniennes se situent dans un seul secteur. C'est évidemment celui du pétrole. Seulement voilà, les Chinois sont, si vous voulez, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, parce que les Chinois aujourd'hui ont un besoin cruel de ce pétrole. Je rappelle que au Venezuela, qui est l'une des deux, la deuxième jugulaire en quelque sorte principale pétrolière de la Chine, aujourd'hui, elle est tenue aussi cette jugulaire par les États-Unis. Autrement dit, la Chine pourrait influer notamment sur le plan nucléaire. le régime islamique au pouvoir à Téhéran. Mais à la fin des fins, je le répète, les Chinois, sur le plan militaire, n'interviennent pratiquement pas du tout. Alors, ils ont donné un certain nombre de renseignements et ils vendent des composants. Franchement, c'est pas fondamental. Donc, encore une fois, je pense que c'est davantage sur le plan économique général que Trump joue quelque chose d'important. J'ajoute un point fondamental. Dans quelques mois, ça vous aura pas échappé, il y a les midterms. Les Américains votent, comme d'ailleurs la plupart des peuples, votent en fonction de leur quotidien et certainement pas en fonction des questions internationales.
Ce qui fait dire aussi à certains experts, notamment américains, encore une fois, là je cite un responsable qui était très proche de la candidate démocrate, qu'il arrive fragilisé, je le disais encore une fois, Donald Trump, avec de mauvaises perspectives, des tensions dans son pays en interne, de très mauvais sondages. Cette visite d'ailleurs, c'est important de le noter, qui a été reportée en raison de ce conflit en Iran qui devait avoir lieu initialement au mois de mars dernier. Il n'apparaît pas aujourd'hui à vos yeux fragilisé. Il reste un interlocuteur de poids aux yeux du président chinois. C'est un interlocuteur incontournable.
Oui, mais j'en suis d'autant plus convaincu que Monsieur Trump respecte très aléatoirement la démocratie. Qui vous dit d'abord que en novembre prochain, les Républicains perdront réellement? Vous savez qu'il y a un découpage électoral qui vient d'être effectué au profit des Républicains. Il n'est pas certain qu'ils perdront. D'une part, d'autre part.
Aujourd'hui, les perspectives ne sont pas en sa faveur.
Pour l'instant, elles ne sont pas en sa faveur.
Et son parti, les Républicains.
Pour l'instant. Mais qui vous dit par ailleurs que Monsieur Trump respecterait le résultat du scrutin? Je me permets quand même de vous rappeler, mais ça vous aura pas échappé, qu'il y a quelques années de cela, il a été accusé par la justice américaine et évidemment par de nombreux observateurs et citoyens américains d'avoir perpétré littéralement un coup d'État. Autrement dit, et dernier point, les prérogatives présidentielles qui sont très importantes en matière de défense et d'affaires étrangères aux États-Unis, un peu comme en France d'ailleurs, de toute façon, après les midterms, elles resteront aux mains de Trump. Or, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est d'abord sa propre carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main.
Sauf qu'il a besoin, Frédéric Ancel, je me permets de vous couper, il a besoin du Congrès si, et on va y venir, si il voulait poursuivre ce conflit, si le cessez-le-feu s'arrêtait, il aurait besoin de l'approbation du Congrès pour continuer, poursuivre l'effort de guerre.
Oui, alors ça, c'est en temps de guerre officielle. Il a proclamé la guerre, il ne me semble pas.
Non,
Monsieur Trump.
Il n'a consulté visiblement pas grand monde.
Et vous voyez, le problème est toujours le même, c'est que vous avez une zone grise interprétative, y compris sur le plan institutionnel, en matière politique et militaire, de la part d'un président américain, lui, joue à fond cette zone grise interprétative-là, et il considère qu'il n'est pas en guerre. Autrement dit, il peut pour l'instant, et regardez à quel point il le fait, négliger, voire mépriser la représentation nationale.
Si on revient à cette visite d'État à Pékin, en Chine, vous disiez, il y a à ce même micro un mois, que les Chinois n'interviennent pas sur le plan militaire, hors de leurs frontières, la Chine face aux États-Unis, disiez-vous, serait ridiculisée. Qu'est-ce qui se joue précisément, quand même, vis-à-vis de l'Iran dans cette visite? Vous dites à quel point aujourd'hui l'Iran est interdépendant du pétrole iranien, ça c'est une réalité. Je poursuis ma question parce qu'on apprend, selon aussi nos confrères du New York Times, que, via des montages, la Chine vendrait des armes aujourd'hui aux Iraniens. Ça peut un peu contrarier le président américain. Est-ce que ça peut être l'objet de discussion, de mise au point?
Alors la Chine vend des composants, pas exactement des armes. Il ne faut pas imaginer des cargos chinois transportant des chasseurs-bombardiers ou des navires flambant neuf sortis des usines chinoises arrivés en Iran.
Du point de vue américain,
ça n'existe pas.
Le résultat est différent?
Oui, il est très différent parce que les composants qui servent à un certain nombre de missiles, de toute façon, les Iraniens aujourd'hui, pour l'essentiel, sont capables de les produire. Par ailleurs, vous avez aussi des composants russes, des composants nord-coréens dans les armes iraniennes. Et je vais vous dire mieux, aujourd'hui, il y a une interaction et une interdépendance technique très forte de manière mondialisée en quelque sorte dans les armements. Moi je reviens sur le nucléaire. Et là où je vous rejoins sur votre question, c'est que les Chinois sont ces dernières années extrêmement conservateurs, voire ultra conservateurs sur les questions nucléaires. Regardez à quel point ils empêchent littéralement monsieur Poutine, depuis son invasion de l'Ukraine, d'agiter, de brandir, comme il le fait d'ailleurs, il a essayé de le faire à plusieurs reprises, l'épée de Damoclès nucléaire. La Chine ne veut pas entendre parler de la remise en cause du traité de non-prolifération de 68.
D'abord, ça pas touche selon eux. Quand vous dites conservateur, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme-là?
Qui refuse catégoriquement la remise en cause de ce traité de non-prolifération, qui à ce jour n'a jamais été transgressé officiellement, mais qui le serait par l'Iran si l'Iran allait à la bombe. Et de ce point de vue-là, on a effectivement quand même quelque chose de possible de la part du président américain en termes d'exigence. Hein. Et je pense que Pékin accepterait sans doute de discuter davantage d'ailleurs sur ce dossier-là que sur d'autres dossiers. Je rappelle juste d'un mot que la Chine a toujours voté au Conseil de sécurité les sanctions contre l'Iran qu'on présente comme allié, à tort d'ailleurs, de Pékin, sur le dossier nucléaire.
Oui, absolument. Xi Jinping qui aussi, on parlait de la forme, ça c'est le fast. Le fond, il y a aussi des discussions, il y a eu ces 2 heures et quart de tête-à-tête, je crois. Et Xi Jinping qui prévient quand même Donald Trump que la Chine pourrait entrer en conflit avec les États-Unis. Alors le mot conflit est à mettre en grand guillemets. Si Washington gérait mal la question de Taïwan, conflit est à mettre entre grands guillemets parce que on est en mandarin et il ne faut peut-être pas comprendre conflit militaire. Mais ce qui se joue entre les deux hommes, c'est ça aussi, la question de Taïwan. Très technique, mais on le sait, Washington est un soutien aujourd'hui de Taïwan. Les fournit en armes aussi, à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Là encore, c'est un des leviers sur lesquels les deux peuvent jouer?
C'est le levier principal pour Xi Jinping. Je vais vous dire, Xi Jinping, la nature du régime au pouvoir à Téhéran, il s'en contrefiche. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir continuer à importer du pétrole, de préférence pas trop cher. Mais Taïwan, évidemment, pour la Chine continentale, pour le Parti communiste chinois au pouvoir à Pékin, c'est évidemment une question identitaire absolument fondamentale. Et c'est là-dessus que Xi Jinping va exiger un certain nombre de garanties américaines et peut-être même une forme de neutralité américaine au cas où, même si pour l'instant je n'y crois pas, au cas où les Chinois décideraient d'intervenir de manière plus forte que seulement sur le plan rhétorique et diplomatique un jour sur cette île.
J'aimerais qu'on vienne maintenant aux dernières déclarations du président américain également. Il juge cessez-le-feu avec l'Iran sous assistance respiratoire. Vous, Frédéric Ancel, spécialiste de ces relations au Moyen-Orient, est-ce que vous voyez, ne lisez pas dans une boule de cristal, mais au retour des États-Unis, de Donald Trump, après cette visite d'État, cette volonté de réappuyer sur le bouton, l'opération Massue, elle a déjà un nom, pourrait-elle reprendre dans les jours qui viennent?
Oui, c'est parfaitement possible. D'abord parce que M. Trump est tout à fait imprévisible, d'une part. D'autre part, il n'organise pas totalement son imprévisibilité. Autrement dit, une partie de ses variables de prise de décision relève du n'importe quoi. Enfin, sur le plan strictement militaire, les États-Unis ont la capacité de frapper avec encore beaucoup plus de force et d'efficacité l'Iran. Ça ne veut pas dire que le régime chuterait, mais ça veut dire que l'Iran serait littéralement et totalement étranglé en termes d'exportation du pétrole, y compris vers la Chine, si le président américain en donnait l'ordre. Donc je vous dis pas que c'est probable, je vous dis que c'est possible s'il n'y a aucune espèce d'avancée dans les négociations.
Avec aussi une image qui nous a frappé ce matin, la diplomatie, vous savez, par le sport, ça existe, une forme de soft power. Cette équipe iranienne, j'aimerais qu'on s'y arrête avec vous, en partance pour les États-Unis, pour la Coupe du Monde de football. Là aussi, évidemment, la FIFA souhaite que cette équipe puisse participer, cette équipe d'Iran. Ça dirait quoi, quand même, l'équipe iranienne sur le sol des États-Unis?
Ça dirait du symbole et non pas de la réalité. Je suis extrêmement méfiant sur les questions du soft power.
Vous n'y croyez pas?
Non, ce n'est pas le soft power qui fait les relations internationales. C'est le hard power. Et on le voit tous les jours. En revanche, le soft power permet parfois de faire passer la pilule, hein, d'une projection de force, une projection d'influence, par exemple. Et par ailleurs, deuxième point, moi je suis très favorable à séparer les questions géopolitiques des questions culturelles et sportives. Et je ne vois pas très bien au nom de quoi on boycotterait l'équipe d'Iran ou d'autres équipes d'ailleurs. Je pense qu'il faut réellement séparer le sportif et le culturel d'une part, le géopolitique d'autre part. Mais ça relèverait du symbole. Je rappelle quand même que
du symbole et dont l'Iran s'est aisément servi ces dernières heures, à grande image de propagande, cette équipe soutenue par un peuple tout à son équipe, évidemment. Ça aussi, ça fait partie de la fantasmagorique aussi, et de l'image et du symbole.
Oui, mais de la propagande, évidemment, d'un régime qui, par ailleurs, est un régime à la fois dictatorial et parfaitement assassin. Bon, mais ça, si vous voulez, chacun joue ça. J'allais dire, chacun joue sa propagande. La propagande, c'est aussi ancien que la guerre. En fait, c'est consubstantiel à la guerre. Donc, que l'Iran souhaite envoyer son équipe, oui, ça, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et que les Américains l'acceptent, c'est encore mieux. On reste dans le symbole. Je veux dire par là, je dis d'un mot, que pendant un match qui opposerait l'équipe d'Iran à l'équipe des États-Unis ou à d'autres équipes, on peut très bien imaginer des bombes s'abattant sur l'Iran ou des missiles s'abattant sur des bases américaines dans la région.
Parce que vous nous disiez il y a quelques instants, Frédéric Ancel, que face à l'imprévisibilité du président Trump, cette opération Massue, selon vous, pourrait intervenir dans les prochains jours. Ça peut intervenir, alors qu'on le sait aussi dans le même temps que l'Iran conserve une capacité en missiles. Là aussi, c'est documenté. On a des mots très forts du président américain qui dit que les capacités militaires sont totalement détruites. Vraisemblablement, il n'en est rien. Et l'Iran, c'est parti. Particulièrement préparé à ce conflit et résiste bien mieux que prévu.
Vous avez raison, et c'est dur pour l'économie mondiale. Ce n'est pas dur, contrairement à ce qui est dit là aussi, c'est une idée reçue, pour l'économie américaine. Ce que les Américains dépensent d'un côté en armement et en usage de bombes et de munitions, en fait, ils le récupèrent de l'autre côté, puisque je rappelle à vos auditeurs et à vos téléspectateurs, mais ils le savent très bien, que les États-Unis, c'est aujourd'hui de loin la première puissance mondiale exportatrice d'hydrocarbures. Mmh. Donc pour les États-Unis et pour Donald Trump en particulier, au fond, cette guerre pour l'instant n'est pas si coûteuse que cela.
Pas si coûteuse, mais a-t-il ou ont-ils sous-estimé les capacités aujourd'hui de l'Iran ? Quand on voit les chiffres, l'Iran a rétabli un accès opérationnel à 30 de ses 33 sites de missiles le long du détroit d'Ormuz. Ça, c'est documenté notamment par la presse américaine qui se base sur de renseignements très précis. Ça, c'est la réalité du terrain également.
Je pense que les États-Unis, alors peut-être pas l'état-major, mais à la présidence, ça c'est sûr, parce qu'il y a une manifeste incompétence diplomatique et militaire, je le disais tout à l'heure. C'est une évidence, c'est chez Trump d'ailleurs, ça l'intéresse pas, ces questions-là. Il y a eu sans doute une mésestimation des capacités de nuisance de l'Iran. Je dis bien des capacités de nuisance de l'Iran. L'Iran peut, et notamment ce régime, peut rester au pouvoir et continuer à provoquer des dégâts. Il ne peut pas gagner la guerre.
Est-ce que pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz, blocus contre blocus, cette initiative française, Frédéric Ancel, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Emmanuel Macron veut reprendre la main avec un Charles de Gaulle, notre porte-avions français en partance vers ce détroit au large des côtes. Est-ce que pour vous, on est là aussi dans de la posture où cela peut aboutir à quelque chose de concret sur le plan militaire?
C'est une posture fondamentalement importante. Pourquoi? Parce que...
Importante derrière, et nécessaire, indispensable.
Et nécessaire et indispensable pour une puissance qui se veut responsable, qui est dotée encore d'un siège permanent au Conseil de sécurité, qui est dotée de la bombe, qui est la première puissance militaire, et d'assez loin d'ailleurs, de l'Union européenne, et qui, derrière, alors loin derrière, je vous l'accorde, mais derrière les États-Unis, est la seule puissance au monde, vous m'entendez bien, à aujourd'hui pouvoir envoyer, projeter un groupe aéronaval dans la région. Donc tout cela est très important, et je conclue d'un mot, vous avez employé le mot indispensable, oui, vis-à-vis de nos alliés. Pour rassurer nos alliés, et on en a des militaires dans la région, évidemment les Émirats Arabes Unis, je note aussi d'ailleurs la Jordanie, et nos alliés contemporains, et peut-être nos alliés potentiel des États qui seraient intéressés dans les prochaines années par la France au regard de la crédibilité que nous aurions projetée au cours de cette crise.
Donc, indispensable selon vous, ce n'est pas uniquement de la posture, et le chef de l'État aujourd'hui est dans son rôle en annonçant cette initiative, peut-être à l'ONU aussi, une initiative qui pourrait être portée dans les prochains jours.
Absolument, démonstration de force vaut force, surtout lorsque vous êtes une véritable puissance.
Frédéric Ancel, votre regard important ce matin, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle votre dernier livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons politiques d'espérer. Merci beaucoup aux éditions Edith Jacob. Il est 8h presque 47 et vous êtes bien sûr RMC BFM TV.
Merci Marie Chantrey, c'était le face-à-face sur RMC. Vous restez avec nous dans quelques toutes petites secondes. C'est Nicolas Canteloup pour Face à Canteloup, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Frédéric Ancel était l'invité du face-à-face ce matin. Et Dominique de Villepin souhaitait réagir.
Bonjour Monsieur Béliard.
Bonjour.
Après Frédéric Ancel, me voilà moi, en poivre et sel. Oui, un peu d'humour, vous l'avez compris, je suis de bonne humeur. Monsieur Ancel, au-delà de son enthousiasme, a une vision, pardonnez-moi, trop pessimiste de la période. Certes, il y a des guerres, certes, il y a une crise politique, certes, il y a une menace de pandémie. Oui, je suis en forme. Mais ne voyons pas tout en noir. La vie nous réserve aussi de belles surprises. Regardez, Nicolas Sarkozy va retourner en prison pour 7 ans. C'est inespéré. Dans ton cul, là-bas.
Merci, monsieur Villepin. Alors, tout de suite, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, oh pardon. Allô
Stéphane, vous m'entendez?
C'est qui, l'homme qui parle?
Stéphane, c'est à vous.
Ah oui, pardon, mon Dieu. Non, parce que je vous explique. Quand je couvre le concours de l'Eurovision qui a lieu samedi en Autriche, à Vienne, j'ai pris quelques précautions avec mes boules caisses. Du coup, je n'ai pas entendu. Bonjour à tous. Je suis tellement excité. Vous savez que j'adore le sport. J'adore le sport, oui. Le polo, le cricket, le bridge, bon bref. Et c'est aujourd'hui que Didier Deschamps doit annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Oui. Et en tout cas, aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension, chez RMC, on fait jouer les remplaçants. Oui. Mathieu Béliard et Marie Chantré. Attention, vous emballez pas. Même si vous êtes très bon, ça ne veut pas dire que vous serez titulaire demain. Hein, jeudi de l'Ascension, c'est comme un match amical. Il n'y a pas d'enjeu. C'est pour ça que vous êtes là. Oh, la cote de Monsieur Béliard. Allez, c'est parti pour les titres. Les organisateurs du Festival de Cannes ont déclaré ne pas avoir mis en place de protocole sanitaire face à l'antivirus. En même temps, c'est vrai qu'à Cannes, avec tout ce qu'ils te mettent dans le nez, je ne vois pas comment le virus aurait la place d'y rentrer. Alors que Nicolas Sarkozy, vous le savez, avait été condamné en première instance à 5 ans de prison, le parquet en appel vient de requérir non plus 5 ans, mais 7 ans de prison contre lui. Eh bien voilà, hein, lui qui disait préférer le septennat au quinquennat, il est bien parti.
Merci Stéphane. Alors selon Paris Match, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani serait à l'origine de la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président. Vous confirmez avoir eu des échanges avec l'actrice franco-iranienne ?
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle.
Alors, on parle d'une relation uniquement platonique ?
Elle court la maladie d'amour.
Répondre en chantant. Votre épouse Brigitte a démenti ces informations. J'imagine que vous en avez parlé ensemble. Que lui avez-vous dit ?
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier.
Ouais. Vous confirmez. Hein,
mais non, rien du tout, cher Mathieu Béliard. C'est les bêtises de la presse people. Vous connaissez, ça fait vendre. Pardon, mais avoir des maîtresses, c'est quelque chose dont on ne peut pas me soupçonner. Hein. C'est un truc de président de gauche. Voilà. Et pour que ce soit clair, une bonne fois pour toutes, dans l'avion, il n'y a rien eu. Hein. C'était pas une gifle. C'est Brigitte aime juste chahuter, voilà. Et je chante ce refrain qui me plaît. Elle me tape. C'est sa façon de m'aimer.
Ouais. Merci, Monsieur le Président.
Vous en prie.
Donald Trump est en Chine. Il rencontrera Xi Jinping. On va essayer de comprendre les enjeux de ce sommet avec le plus fin connaisseur de la Chine en France, Jean-Pierre Raffarin.
Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. FFIRIED. Écoutez, Donald Trump est le président Xi Jinping, c'est une rencontre qui fait plaisir. C'est un beau roman d'amitié qui commence entre les deux. Magique adolescence où tout est un jeu. Vous voyez que le président Macron n'a pas le monopole du champ juste.
La paix en Iran, est-ce qu'elle dépend de cette rencontre ?
Écoutez, les deux dirigeants, à l'évidence, souhaitent la paix. Et la paix, vous le savez, c'est la volonté, Stéphane Bureau, nous en parlions tout à l'heure. La paix, c'est la volonté d'avancer ensemble, l'un vers l'autre, en direction de la marche arrière du conflit qui les oppose, et de faire un grand pas en avant sur les rails de la réconciliation pour déployer les ailes du navire mondial sur le chemin pentu de l'harmonie universelle.
Merci, Monsieur Raffarin. Nicolas Sarkozy nous a rejoint dans le procès du financement présumé libyen de sa campagne de 2012. L'avocat général a requis 7 ans de prison.
Quelle indignité, Mme Pujadas. Une réquisition de 7 ans de prison contre moi ? Vous croyez qu'il n'y a pas mieux à faire comme réquisition ? On est en pleine épidémie ? Et pas plutôt des masques à réquisitionner ? Hein, des soignants réquisitionnés ? Des blouses blanches à réquisitionner ? Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Béliard. J'assume responsabilité. J'irai en prison. Mais la tête haute.
Vous avez peur de l'épidémie, d'un futur confinement ?
Non, écoutez, être à l'isolement, j'ai déjà fait ça pendant 21 jours. C'est juste que si on est en cas contact, on est mis en quarantaine 45 jours. Et pour tout vous dire, les 45 jours, ça ne m'arrange pas. Non, parce que 45 jours, pour écrire un livre, c'est un peu long. Et pour en écrire deux, c'est un peu court. Après, ça dépend si c'est 45 jours ferme ou avec sursis. Si c'est une quarantaine qui peut être aménagée avec un bracelet électronique. Si on peut se faire peut-être une auto-attestation de sortie de prison. Mais bon, je vous rassure, j'ai fait un test PCR. Ah. Je me suis auto-testé tout seul dans ma narine que j'ai. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma narine ? Et ça, c'est imparable. Que j'étais négatif à la culpabilité.
Mais je le savais, j'avais aucun symptôme. Je marchais la tête haute. Mais oui, la tête haute, parce que sinon, quand on marche la tête basse, il y a le nez qui coule. Donc, c'est QFD.
Et pour finir, il y a Alain Marchal qui nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules.
Et oui, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, dans les GG, nous reviendrons bien sûr sur les mesures sanitaires contre l'antivirus et nous poserons la question 45 jours de quarantaine, n'est-ce pas un peu trop long? Nous en parlerons donc avec André, qui connaît bien le sujet de l'isolement, puisqu'il vit non pas depuis 45 jours, mais depuis 45 ans dans la Creuse. Et en entendant son témoignage, vous comprendrez qu'il ne va pas beaucoup mieux. Nous parlerons également des très attendues aides gouvernementales sur les carburants. Nous serons en ligne avec Raymond, patron d'une petite entreprise de transport au bord de la faillite, qui attend ses aides avec espoir pour pouvoir enfin acheter quelques litres d'essence afin de s'immoler avec ses derniers chauffeurs et son camion. Enfin, face à la crise pétrolière qui dure, faut-il rendre les transports gratuits? C'est une vraie question. Nous poserons dans les GG. Nous aurons le témoignage de Chantal qui a trouvé l'astuce pour utiliser gratuitement les transports en commun. Elle ne prend que des ascenseurs, ce qui lui procure de vraies économies. C'est une vraie astuce, même si elle regrette que le nombre de destinations soit un peu limité. Voilà, vous l'aurez compris, comme chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas, quand tu passes 50 coups, on retrouve demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, le vrai, mon cher Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous reviendrons sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il craint un second tour présidentiel Mélenchon-Marine Le Pen. Est-ce que c'est, ou Bardella, est-ce que c'est le meilleur ou le pire des scénarios? Et puis, on reviendra sur cet internaute aussi qui a piégé un pédophile présumé avec une fausse vidéo. Alors, justice expéditive ou au contraire, on lui dit bravo? Vous venez en discuter avec nous au 32-16.